La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, on est bien. Magnifique émission. 2 heures en très bonne compagnie, comme d'habitude. En votre compagnie pendant 2 heures. Restez bien avec nous. De 18h à 20h, c'est Rotten sans flamme en plein milieu de semaine. Et on est à 2 jours de l'euro. Donc, beaucoup d'excitation. Et oui, on va en parler de cet euro avec Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme. Salut tout le monde.
Ah, Jean-Louis.
En pleine forme.
Oui, en pleine forme. Comme Christophe Dugarry, j'imagine. Salut Christophe.
Salut les copains, comment ça va?
Écoute, on est bien.
Ça s'approche à l'euro, ça chauffe là.
Ah ouais, voilà. Toi aussi, tu vas être au travail là.
Exactement,
tu vas au boulot.
Qu'est-ce qui va te faire? Je dis un truc, il y a quand même un truc que je ressens, tu vois, de me dire ces poules, je les attends avec impatience. Et de me dire que sur 4 équipes, il y en a pratiquement 3 qui sont qualifiées sur 4.
Il y a du suspense.
Dis, ça, ouais, y a voilà, du suspense. Déjà, ça va commencer sans suspense. Ouais, les 3 premiers matchs, ils servent à rien. Déjà.
Puis tu vas revoir Dédé, écoute, si tu arrives à le comprendre quand il te parle, tant mieux. Nous, on a du mal en tout cas, de plus en plus. Louisa Nessive avec nous. Salut Louisa.
Salut à tous.
Salut Louisa.
Ça va, merci.
Bon, écoute.
Et donc ce soir, Rotten sans flamme autour de l'euro, début de la compétition. Dans 2 jours, les Bleus sont arrivés en Allemagne aujourd'hui. Mais alors, cette compétition a-t-elle toujours autant la même saveur pour vous? L'UEFA, l'organisateur, sera l'accusé du soir. Accusé d'avoir tué cette compétition.
Ah bon?
En l'ouvrant à trop d'équipes. Vous avez compris,
ah ouais,
si vous êtes attentif, qui allait être le procureur. À 19h, on va replonger dans un euro mythique, comme on le fait depuis le début de la semaine.
Ah, celui-là, il est beau.
Ça s'appelle un euro symbolique. Voilà la musique, bien sûr, qui va avec. L'euro symbolique ce soir de Christophe Dugarry, c'est l'euro 2000. Dénouement incroyable.
Bah, Louisa, tu devais être amoureuse de Duga, les cheveux longs,
Elle était pas née, laisse-la la pauvre.
Ah ouais. Bah, si, t'étais née, Louisa.
Si, j'étais, oui, bien sûr.
Y a pas avec que Zizou dans le cœur de Louisa.
Louisa, il devait y avoir quelques copines amoureuses de Zizou, de Duga quand même.
Pour être très honnête, je démarrais à peine le football à la télévision.
Ouais.
Donc, du coup, je découvrais un peu tout.
Ah d'accord, ouais.
Bah, disons.
Bon.
Il y avait de bonnes choses alors. Il y avait des émotions sur cet Euro 2000. On y reviendra en détail. Sans doute la compète.
Du gars en sang, du gars avec les écarteurs de narines, c'était fantastique.
Non, pas là.
Ah non,
pas l'Euro 2000 quand même.
Si, c'est fait casser le nez.
C'était pas le truc pour respirer mieux à l'Euro 2000 plutôt. Il y avait ça là, sur le torse.
Ah, le Vix.
Ouais, le Vix.
Le Vix, c'est pas de Vira.
C'est les Anglais qui mettaient ça, les mecs qui jouent en Angleterre.
Ah ouais, mais pas de Vira, il avait pas compris qu'il fallait en mettre un peu, lui, il mettait le pot.
Rendez-vous tout à l'heure, 19h pour l'Euro 2000. À 18h45, nouvelle remise des Casards d'or dans le Casard enchaîné avec Julien Casard. Et puis l'expérience RMC se poursuit. On vous envoie désormais, depuis hier, à France-Pays-Bas. C'est le 21 juin prochain à Leipzig. On vous offre le voyage, l'hôtel, les 2 places pour le match et la rencontre avec les équipes RMC. Pour avoir une chance d'avoir ce cadeau, il faut être attentif au signal sonore. Le coq, dès que vous l'entendez, le Rotten sans flamme, et il peut arriver à n'importe quel moment, vous envoyez Euro au 732-16. Tout de suite, alerte, c'est la crise.
Je suis nul.
L'opérateur Canal Plus ne s'est vu attributaire d'aucun lot.
C'est une évolution qui est significative, qui va permettre de mieux payer les joueurs.
Tu peux uniquement être nul assez fréquemment et j'en faisais une généralité.
Des clubs qui sont de plus en plus spectaculaires pour le spectacle que l'on diffuse.
On doit être en capacité de retrouver une compétitivité accrue sur la scène européenne.
J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football.
Tu te mens à toi-même. Peut-être que tu ne veux pas le voir.
J'ai rien, j'ai plus rien. Je suis ruiné.
On l'embrasse, Daniel Balavoine.
Allez, it's me the karaoke.
Ah, mais c'est dur, Daniel Balavoine, très très dur.
Ah, il faut une voix au perché.
Ah, ouais, bah, oui. Il faut savoir
J'ai des limites là-dessus.
Parce qu'à 2h du matin,
non, c'est pas Johnny.
Tu penses que t'as des limites
Johnny et Patrick Bruel, ça va, mais ouais, à 2h du matin.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas de limite, non. Peu importe la voix, ouais, on chante. Non, t'es pas de.
Non, je suis pas.
De toute façon, il rentre pas, Jérôme, avec cette coupe de cheveux en boîte de nuit, mais t'es sérieux ou quoi?
Non, pas en boîte de nuit, au karaoké.
Ah oui, c'est ça. Même pas, je suis pas sûr qu'il rentre au karaoké.
Si tu savais, du gars, boîte de nuit, ça fait un bout de temps que je suis pas sorti. C'est fini ça.
Ça m'étonne pas d'ailleurs, t'es peu à la page.
Bah oui, oui. Bon, ça me dérange pas.
Tu dis ça, du gars, parce que Jérôme s'est refait sa coupe de cheveux. Vous pouvez aller voir ça sur les réseaux sociaux.
Ah bon? Ah ben merci aux auditeurs parce que vraiment ils en pouvaient plus. Oh, tous les messages qu'ils envoyaient, ils étaient au bout du rouleau les pauvres.
Allez, c'est pas grave. Allez, vas-y, allez, parle du foot là.
Oh ben, on va pas vraiment parler de foot hein, parce que c'est toujours la crise autour du foot français. Ouais. Hier, on vous en parlait déjà. Toujours pas d'accord trouvé pour les droits télé. Des présidents qui ne peuvent pas recruter, comme l'a expliqué Laurent Nicolin à Montpellier. On parle d'une enveloppe espérée de 500 millions d'euros désormais avant d'enlever la fameuse part CVC. Ça fait
13%,
donc,
c'est ça?
Bah 20% la première année et après 13%.
Ah,
donc,
et 20%.
On part plus sur 350, 400 millions dans les caisses des clubs au mieux. Hein. Après, il y aura peut-être les droits internationaux également à côté, mais bon, ça fait quand même maigre. Est-ce qu'à votre avis, c'est une catastrophe totale pour notre Ligue 1? Est-ce qu'on va avoir un sous-championnat désormais? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Jérôme.
La catastrophe. On est quand même mal barré. Alors, il n'y a pas que l'argent, on est d'accord. Et peut-être que des clubs, par la force des choses, ils vont se remettre à travailler correctement et à pas s'enflammer et à reprendre les bases. Parce que certains clubs ont oublié ces bases-là. Les présidents se sont bien enflammés sur les dernières années. Et là, la dure réalité, c'est celle-là. Jean-Louis, tu t'imagines, toi, 350 millions pour les clubs. Il y a 18 clubs. Le partage, je ne sais pas exactement comment il se fait. Mais il reste pas grand chose quoi. Juste pour des droits télé qui sont pour la plupart le financement de leur budget sur l'année, tu vois, 70% pour certains clubs. Donc t'imagines la claque pour les dirigeants, pour les présidents, mais la claque pour les joueurs, parce qu'il y en a aussi qui vont redescendre un petit peu sur terre, qui sont aujourd'hui, alors on leur a donné les contrats, ils ont braqué personne, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des joueurs moyens, très moyens, qui sont surpayés, qui sont trop payés. Donc là, eux aussi, il va falloir qu'en termes de contrat, ils apprennent à gagner moins, en faisant plus d'efforts, certainement pour retrouver de la compétitivité. Parce que quand tu as moins d'argent, forcément, bah, tu vas t'affaiblir en termes de nom et d'expérience sur le terrain. Que tes jeunes qui vont montrer, déjà que ça se passe dans la plupart des clubs, mais qui vont être très bons très vite, bah, ils vont se barrer parce que de toute façon, tu n'auras aucun moyen de les garder. Et ceux qui sont, comme je te disais, Jean-Louis, des joueurs moyens et qui, eux, vont rester dans notre championnat, il va falloir qu'ils apprennent à vivre avec moins. C'est tout, c'est comme ça. Et retrouver peut-être, au fond, c'est peut-être un mal pour un bien, retrouver un peu plus de passion, que certains ne le voient pas comme juste un métier, le football, d'être footballeur professionnel, mais d'être un métier avec une chance inouïe de se dire que tu fais une passion, ton métier, t'en fais une passion. Et donc ça, c'est quand même incroyable que certains aient oublié, et par la force des choses, ils vont être obligés. Mais pour répondre plus clairement, et je donne la parole à Christophe et à Louisa, je pars du principe que oui, dans un premier temps, on va être un sous-championnat et qu'on va être dans la mouise.
Est-ce qu'on sera capable de se réinventer derrière? C'est ça la question.
Ça va mettre du temps.
C'est le sujet. Après, bien évidemment que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les clubs parce que il y avait un prévisionnel qui était fait. Il y a des gens qui sont rentrés dans le foot pour ses droits télé parce qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. Et il va y avoir beaucoup de déçus, forcément. Après, il y a eu des promesses qui ont été faites aussi. Le président Labrune qui a été élu aussi pour ça, qui avait un objectif. L'objectif n'est pas atteint. Donc ça prouve une nouvelle fois que les présidents de clubs travaillent mal depuis des années, que ça travaille mal à la Ligue, et il va falloir se réinventer, il va falloir trouver des solutions. Comment, je n'en sais rien, peut-être miser encore un petit peu plus sur nos centres de formation, trouver une législation qui permettra de garder nos jeunes un petit peu plus tôt pour pouvoir les vendre encore mieux. Après, dire qu'on serait un sous-championnat, mon Jean-Louis, qu'est-ce que ça veut dire un sous-championnat? Moi, je parle toujours d'émotion, je parle d'histoire et d'émotion avec le foot. Voilà, t'es un club, t'écris ton histoire et tu vis des émotions. Je ne suis pas persuadé que les Hollandais se prennent pour un sous-championnat. Je ne suis pas persuadé que les Portugais se prennent pour un sous-championnat. Je ne suis pas persuadé que les Belges se prennent pour un sous-championnat. Ils arrivent à vivre des émotions, ils arrivent à vivre des moments extraordinaires avec leur club. Ça existe. Moi, ce que fait Riron, par exemple, en Espagne, d'autres sont capables de... dans d'autres championnats. Je ne suis pas persuadé qu'en Grèce ou en Turquie, ils se considèrent comme un sous-championnat et qu'ils ne vivent pas tous les week-ends les supporters des émotions. Donc non, je pense qu'il faut savoir payer les choses à leur juste prix. Ça fait des années que le football français ne rentabilise pas tous les investissements des chaînes télé qui ont été faits. Il y a eu des investissements qui ont été énormes depuis des années et des années. Parce qu'on parle des droits télé, mais il faut penser à la production. La production, c'est le double. C'est-à-dire que quand tu payes 600 ou 700 millions d'euros des droits par an, t'en as pour autant de production avec tous les caméramans, avec tous les cars régies, avec toutes les installations qu'il faut faire lorsque tu vas retransmettre un match. Donc c'est clair que ce n'est pas rentable. Aujourd'hui, la Ligue 1 n'est pas rentable pour un investisseur, pour une chaîne télé. Donc il faut se poser les bonnes questions. Même avec des joueurs comme Neymar, même avec des joueurs comme Messi, oui, même avec rentable. Des joueurs comme Mbappé, tu te rends compte, c'est pas rentable. Ce n'est pas possible. Donc au bout d'un moment, il faut se mettre autour d'une table, il faut réfléchir, il faut un salary cap, quitte à perdre peut-être tes meilleurs joueurs, tu les perds.
Oui,
tu les perds déjà. Il faut raisonner, il faut réinventer notre football. Voilà, comment les choses vont se passer à l'avenir. Mais maintenant, c'est sûr que la pilule va être très difficile à avaler. Et il y en a qui vont rester sur le carreau, parce que ça va être un choc. Aujourd'hui, il y a des contrats sont en place pour les joueurs, il y a des transferts à payer parce qu'il y a des clubs qui paient des transferts sur plusieurs tranches, voilà, sur plusieurs années. Donc il va y en avoir qui vont rester sur les carreaux.
De toute façon,
sur
le carreau. Mais l'a dit, hein.
Voilà, est-ce que c'est mal? Au bout d'un moment, ils ont trop mal travaillé pendant des années.
Vrai,
moi, je m'évertue à le dire. Au bout d'un moment, quand tu finis par mal travailler, puis tu tombes dans le précipice.
Ouais, et puis du gars, tu sais, il y a une chose. Moi, je constate. On a fait le débat il y a trois semaines, même un mois, par rapport aux adieux de Kylian Mbappé. Je trouve que la plupart, ils sont encore plus dans une bulle aujourd'hui. Ils sont inaccessibles. Ouais. Il y a plus de cette relation avec le public, avec tes passionnés. Ils sont vraiment coupés du monde à cause des dirigeants, à cause des gens qui travaillent aussi autour des clubs, dans la communication, dans le marketing.
Mais regarde,
et tout ça.
Regarde Jérôme, un truc tout simple. Regarde la Première Ligue, par exemple. La Première Ligue, le nombre de reportages qui se passent de joueurs. C'est-à-dire que les droits télé, la Première Ligue, fait des reportages les stars du championnat et les revend aux chaînes ou sans les vendre, ou ça fait partie du package quand le Sky paye 2 milliards. Alors on ne sera jamais jusque-là. Ouais. Mais au bout d'un moment, avoir un accord entre les clubs et le diffuseur, et puis qu'il se passe quelque chose de collégial. Il y a trop de guéguerres en interne, il y a trop de déclarations, ça se passe trop mal, sincèrement. Quand tu vois qu'il y en a qui, pour travailler ensemble, il faut quand même bien s'entendre, un minimum. Et puis tu l'as dit, Jérôme, les joueurs surpayés qui n'apportent pas le moindre résultat, notamment en Coupe d'Europe, ça suffit. Il y a trop de joueurs surpayés. S'ils veulent gagner de l'argent et que l'argent est leur priorité, qu'ils partent en Arabie Saoudite, qu'ils partent à l'étranger, et puis on n'en a rien à faire, on ne veut pas les voir, ces mecs-là, on n'en a rien à faire. Voilà.
Louisa, est-ce que tu penses que derrière cette crise, il peut y avoir justement une nouvelle dynamique, des clubs capables de se réinventer, un horizon peut-être un peu plus radieux, une fois la crise passée ?
Ben oui, il faudrait changer de stratégie du côté des clubs. Après, c'est vrai que le foot français est au bord du précipice aujourd'hui en termes de droits télé. On se demande qui va sauver le foot français. Donc on en est là aujourd'hui et la situation, c'est celle-là. Et les droits télé sont si importants parce que c'est plus de la moitié d'un budget d'un club.
Eh oui.
Donc c'est une situation quand même inédite. Comment tu prépares le budget de ton club quand tu ne sais pas ce que tu vas toucher en droits télé? Donc c'est vrai que c'est très compliqué.
Ça montre bien qu'il y avait un problème de modèle et peut-être que les clubs vont se réinventer derrière.
Ben il faudrait, mais j'ai l'impression qu'ils attendent après ces droits télé. Il y a rien qui bouge. Donc après ils ont été aussi trop gourmands. La Ligue à l'époque, Canal proposait 800 millions, ça a été refusé parce qu'ils attendaient le milliard. Aujourd'hui on parle d'un budget autour de 500 millions. Donc déjà.
Et encore.
Ouais, peut-être 350, 400. Donc à un moment donné, le travail a mal été fait aussi au niveau de la Ligue. Après, pour que cela se fonctionne bien, Dugal a dit, il faut aussi que ils soient alliés les uns avec les autres. Ça marche bien avec le rugby et Canal. Pourquoi? Parce qu'ils marchent ensemble. Donc si déjà il y a des tensions en interne, ça ne peut pas fonctionner. Et aussi, ce qui est vrai aussi, c'est que le produit Ligue 1 n'est plus un produit haut de gamme aujourd'hui. La Ligue 1 a perdu de son attractivité. Quand on voit le PSG qui survole le championnat, ce sont ces vedettes qui lui ont permis aussi de survoler ce championnat depuis des années. Aujourd'hui, on les a plus, les vedettes. On a
Mbappé qui part. Et puis en plus, il y a une chose, et moi je suis assez d'accord avec ce que tu disais du gars aussi, c'est par rapport à l'étranger. Ce qui se passe, par exemple, en Angleterre. Alors l'Angleterre, c'est le top du top, on est d'accord, en termes de droits télé, en termes termes de visionnage des matchs. C'est vrai que c'est révolutionnaire par rapport à nous. Hein. Il faut être très clair. Maintenant, eux, ils ont réussi à se réinventer, à vendre des choses, à amener le supporter de base, le passionné de football, à découvrir des choses, à découvrir des joueurs, à découvrir l'envers du décor. Nous, t'as l'impression que tout est fermé à double tour. Les clubs, la plupart, avec le diffuseur, là, on regarde, cette année, c'était Amazon. Est-ce que vous avez vu des reportages chez Amazon qui vous ont marqué de joueurs? Non, rien. C'est fermé à
un
double
peu
tour.
Plus quand même. On a vu quelques interviews chez eux qu'on n'avait pas nous, par exemple.
Oui, mais des interviews, d'accord. Oui, d'accord. Mais bon, c'était
un peu plus qu'ailleurs.
On va pas se mettre en quatre pour regarder ce genre d'interview. Et puis, l'autre chose, c'est aussi les clubs, dans la façon de travailler. Moi, je veux bien. Mais quand tu veux vendre un produit, en effet, en termes de spectacle, en termes de niveau, on a été inférieur cette année, encore plus que les autres années. Ça, c'est la réalité. Sauf que quand tu ouvres et que tu donnes une autre image, tu vois, différente, que les clubs arrêtent de réagir en disant « Oh non, non, mais là, on a un match important, non, on ferme Giro, tout, on parle pas. »
L'expérience, c'est que nous, on n'a pas notre Sunderland, comme il y a eu sur Netflix,
oui,
et même, on n'a pas ça. Manchester City, mais, Arsenal, qui ont ouvert leur vestiaire pendant des saisons entières aux caméras. Nous, on n'a même pas ça sur une journée d'un match.
Jean-Louis, je fais pas référence et je donne pas des leçons, parce que nous, en 2004, avec Monaco, on a donné cette image-là.
C'est vrai, les bombes rouges.
Mais oui, le périple rouge. Mais un documentaire comme ça, comme les yeux dans les bleus en 98. Mais je te dis que c'est impossible de mettre ça en place. Impossible.
Jérôme, je vais te dire un truc pire que ça, Jérôme. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à Canal. Il y a des émissions qui ont été inventées par Canal. C'est-à-dire le Canal Football Club, à l'époque, rappelle-toi l'émission Les Spécialistes. Ça a été inventé par Canal. Mm-hmm. Il s'est avéré qu'une fois que ces émissions ont été inventées par Canal, eh bien, la Ligue les a mis dans les droits. C'est-à-dire qu'ils vendaient ces émissions. Voilà, ouais. Ils disaient, ils leur vendaient des droits pour le dimanche ce soir, des droits pour le lundi soir. Ils inventaient au fur et à mesure que les chaînes inventaient des émissions pour satisfaire le public et puis pour vendre aussi les équipes. Et bien eux, ils mettaient ça dans les droits et après il fallait payer. Donc Canal devait payer des émissions qu'ils avaient eux-mêmes inventées. C'était fou.
T'as raison. Il faut peut-être s'ouvrir, revoir tout le modèle, avoir une réflexion générale.
Ils vont pas avoir le choix.
Voyons ce qu'en pense Geoffrey. Est-ce que la Ligue 1 va devenir un sous-championnat?
Salut Geoffrey.
Salut l'équipe.
Bienvenue. Comment tu vas? Tu nous appelles d'où?
Moi, d'à côté de Lille, mais supporter du Racing.
D'accord.
Bon, c'est le bon exemple parce que vous avez performé quand vous aviez pas d'argent et c'est quand vous avez commencé à en avoir que vous avez fait un peu n'importe quoi l'été dernier.
Bon, après ils ont un milliardaire radin, qu'est-ce que je te disais. Bon, écoute, qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce que c'est vraiment problématique? Est-ce que ça va jouer aussi sur ton envie de te connecter encore à la Ligue 1 ou pas?
Non, ça touchera pas mon côté supporter. Ça c'est clair. Mais néanmoins, je rejoins en fait tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que le problème, c'est un problème de mentalité. On espère.
Aussi, t'as raison, aussi.
Ouais, on se dit que voilà, il y a plus d'argent, donc les clubs vont se réinventer. Mais moi, j'y crois pas du tout. Je pense que déjà au niveau de la ligue, même de la fédération, personne n'est là pour se réinventer. C'est des personnages qui sont là pour.
Ils sont là depuis toujours en plus. C'est des pompiers pyromanes.
Ouais, c'est exactement ça. Et tu prenais l'exemple de la première ligue. Eux, ils ont su se réinventer, mais en plus en ayant plus d'argent. Donc, en fait, ils ont fait le bon schéma. Et nous, j'ai l'impression que nous, on va faire le contraire. Ben, nous, on a plus d'argent et on va continuer à creuser. Quand j'ai lu, c'est le président Nicolas, en plus un club que j'aime bien, Montpellier, qui se plaint comme quoi c'est la faute de Canal. Ben non, s'il n'y a pas de résultat et qu'aujourd'hui on voit des clubs grecs qui arrivent à faire des parcours en Coupe d'Europe, à un moment donné, c'est que ce que les personnes en place font ne fonctionne pas. Donc avec ou sans argent, ce sera pire en fait. Ce sera pire, ça pourra jamais être mieux. Donc la seule espérance qu'on peut avoir, c'est que certains clubs qui arrivent à se dire, ben voilà, là on va se mettre à travailler comme il faut, à faire sortir des jeunes et aller regarder un petit peu dans les championnats mineurs pour essayer de trouver des joueurs. Mais quand on parle de championnats mineurs, je pense que la France, de toute façon, on est déjà un. En tout cas, on ne fait pas partie des gros. Et moi, je pense plutôt qu'on va continuer de creuser, malheureusement.
Ouais, ben l'arbre qui cache la forêt, c'est le PSG, bien évidemment.
Oui, mais ça, et tu as raison, Dugas, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est aussi problématique, parce que ça, dans ces dernières années, ça a forcé, si tu veux, je pense, ça a précipité le fait de faire d'autant plus de conneries chez certains clubs, en se disant tiens, on va travailler comme ça, on va faire des one shot, on va prendre la stabilité à Marseille pour essayer peut-être sur une année de concurrencer le Paris Saint-Germain, de les dépasser, pas de construire sur le moyen terme. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as cette politique-là, que tu as pris des risques, que tu as surévalué certains joueurs, tu as donné trop d'argent aussi à d'autres, à des joueurs moyens, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui tu te retrouves coincé parce que ces mecs-là, ils sont sous contrat. Soit tu as payé des transferts encore que tu dois rembourser, et quand tu n'as pas les mêmes rentrées d'argent au niveau des droits télé, ce qui va arriver donc là à partir du mois d'août, si ça arrive, hein, parce que pour l'instant, on ne sait pas comment on va être mangé. Franchement, il y a plein de clubs qui peut-être vont poser, devront déposer le bilan. J'ai bien peur que ça arrive chez certains. Et puis il y en a un qui est sorti du bois dernièrement encore, Jean-Michel Aulas, qui nous a dit Canal, maintenant Canal. Mais arrête, t'as été le premier à balancer des infos, à critiquer ouvertement Canal Plus. Et maintenant tu dis c'est Canal qui doit nous sauver. Alors arrête, franchement moi je veux plus l'entendre lui, parce que lui à l'arrivée c'est triste de parler comme ça de ce personnage là parce qu'il a tellement marqué le football français. Mais sur les dernières années, il est complètement à l'agonie. Même à Lyon, il a été néfaste. C'est quand même problématique. Et il est encore là à la Fédération Française de Football. Oh là là, franchement, mais là, on est vraiment dans la mouise, hein, de ce côté-là.
Non, mais après, est-ce qu'ils sont capables de se réinventer? Voilà, ça a plutôt.
Ah, ces gens-là, ils sont pas capables. Hein.
Ah ouais, c'est ça le problème.
Bah oui, mais Dugas, franchement, est-ce que tu es rassuré aujourd'hui, rien qu'à la Fédération Française de Football, quand tu vois que ces gens-là, ils donnent leur avis et leur aval sur plein de choses encore, mais ils sont dépassés.
Ils sont prétentieux, ils sont d'une arrogance rare, voilà, ils se prennent pour rouler les bottes. Et à ce qui s'est passé, il y a eu quand même des alertes, il y a eu des grands clubs qui ont coulé, voilà, je pense à Bordeaux bien évidemment, mais il y en a eu d'autres aussi. Ce qui s'est passé avec le Covid, ça aurait dû être une alerte également. Ça fait des années et des années que Canal Plus t'explique que c'est pas rentable. Ça a été le cas avec Bein, ça a été le cas avec Orange, ça a été le cas avec Amazon, ça a été le cas. Et ils croient toujours qu'il va y avoir un pimpin qui va débarquer et qui va filer 800 millions d'euros.
Donc, exactement.
800 millions d'euros, c'est
Et elles sont où les bonnes idées de l'UNFP? Parce que aussi, hein, le syndicat des joueurs qui défend les joueurs. Non mais je suis désolé. Je peux tomber sur l'NFP? Comment? Eux, c'est eux qui normalement sont là pour défendre les joueurs aujourd'hui. Oui. Eux aussi, avec ce qui touche sur les droits télé. Ah bah là, ils se disent oh là là, merde. Ah mais on va peut-être toucher un petit peu moins de salaire, un petit peu. Tu les as entendus défendre les joueurs?
Mais j'ai pas envie de les entendre. Là, c'est pas eux qui sont en première ligne.
Mais je suis désolé parce que à l'arrivée, les joueurs
mettent une couche à tout le monde.
Mais parce que c'est l'ensemble de la famille du football français et ils en font partie. Ils ont une place forte. C'est le seul syndicat des joueurs, Jean-Louis. Et ben, excuse-moi, ils peuvent aussi sortir du bois, dire on est inquiet. Il y a certains joueurs qui vont se retrouver parce qu'on parle des clubs, mais certains joueurs vont se retrouver en grande difficulté, Jean-Louis. Tu vas voir que là, les stages UNFP là, comme ils font tous les ans, mais ils vont être remplis, hein. Mais à ras-bord, hein. À ras-bas, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, hein.
Ok, merci Geoffrey d'être venu au 32-16. À très bientôt sur RMC. Dans une seconde, on parle de l'euro. Mais est-ce que cet euro a toujours autant de saveur? Ou est-ce que l'UEFA
on va vibrer.
L'a tué. À tout de suite pour faire
Christophe Duguerre au commentaire, c'est fantastique.
Patrick, il est dans la surface des TV TCL chez Electrodépôt.
C'est clairement du TCL. 190,5 cm Google TV 4K Ultra HD à seulement 799€. Les prix bas chez Electrodépôt, bien sûr.
Oh, quelle qualité d'image! Oh, il rentre dans la zone avec son caddie!
Oui, il la met sur son caddie et c'est une passe décisive!
Passage en 15, c'est une TV TCL à seulement 799€ chez Electrodépôt.
Vivez de grands moments chez Electrodépôt en magasin ou sur electrodépôt.fr avec TCL.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h28 sur RMC, on est là, on est bien. Il faut rester avec nous jusqu'à 20h. Hein. C'est dans Roten sans flamme, c'est fantastique émission aujourd'hui. Encore une heure et demie avec Christophe Dugarry, avec Louise Anessib et avec Jean-Louis Tour dans 15 minutes. Le moment de Julien Cazard. Oui, vous avez bien entendu, Julien Cazard sera parmi nous pour se détendre. Il faut quand même mesurer la chance qu'on a d'avoir un plateau comme ça, hein, Jean-Louis.
Ah oui,
ouais.
Et la chance qu'on a aussi que Dugas nous parle de sa carrière. Parce que c'est rare. Hein. Souvent, c'est... il dit oh, machin.
Ouais, on parle pas des carrières.
Voilà, j'ai déjà raconté toutes les histoires.
Mais c'est pas que je veux pas, c'est que je m'en souviens pas, c'est tout.
Oui, il y a ça aussi comme problème. Mais t'inquiète pas, j'ai noté plein de trucs.
L'Euro 2000, tu t'en souviens quand même, rassure-moi.
L'Euro 2000, je m'en souviens
sur la mémoire.
Voilà. Ah oui, merci Jean-Baptiste.
J'espère que t'as les adversaires en tête quand même.
Oui, ça va être pour mettre en valeur, j'imagine. Comme d'habitude, merci beaucoup.
Bah, attends, on est là pour ça quand même. C'est ta plus belle compète du gars.
L'Euro 2000, on peut pas critiquer.
Bah oui,
bien sûr.
Tu l'as bien réussi.
Bah, t'es quand même buteur dans 2 euros et une Coupe du Monde. C'est pas donné à tout le monde.
Fois, mon petit but de raccro, chaque fois.
Bah oui, mais bon, c'est vrai que c'est énorme. Autant on peut rigoler sur le fait que t'as pas marqué 150 buts
Mais du coup, on les apprécie quand on en voit.
Voilà. Ah, c'est ça, ils sont rares. Plus ils sont rares, plus tu les apprécies.
Et puis on a noté que c'est quand t'es sorti en finale que ça a été mieux.
Non, mais je pense que tu mesures pas la chance que t'as eu de jouer une finale de Coupe du Monde et une finale d'Euro. C'est beau dans un.
Si, je mesure.
Voilà. Bon, ça, ce sera à 19h. C'est l'euro symbolique de Duga, l'euro 2000. Ce sera tout à l'heure. Et puis, il y a toujours eu pas.
Bon, moi aussi, j'ai fait une finale de Coupe des Confédérations.
Hein. Ah oui?
C'est encore mieux que la Coupe du Monde. C'était plus réduit, c'était plus dur à gagner. Non
d'accord. Mais t'es rentré, tu l'as joué?
Ouais, j'ai joué. J'ai laissé ma cheville, mais j'ai joué.
Non, faut qu'on aille vérifier. Si
j'ai laissé ma cheville contre le Japon.
Je te crois pas. Je suis sûr que t'étais un remplaçant.
Mais quoi, la finale?
Oui.
Non, tu me parles de la compète. La compète, j'ai joué, j'ai laissé ma cheville, je t'ai dit, contre le Japon.
D'accord. C'était la finale?
Non, c'était le troisième match de poule. Après, on était qualifiés en demi-finale. C'était fantastique.
Ah, c'est d'accord. Donc, t'as joué le match des coiffeurs de la Coupe des Confédérations?
Non,
il faut comprendre.
C'était le match de coiffeurs? Non, c'était un match fondateur, je pense, contre le Japon. Bon, vas-y, on s'en fout, vas-y, allez, parle de.
Bon, non, je voulais quand même dire qu'il n'y a pas eu l'alerte pour l'expérience RMC. Donc, si vous voulez aller en Allemagne, assister à France-Pays-Bas, restez bien à l'écoute, c'est toujours pas tombé, c'est un coq, un moment qui arrive, vous allez comprendre. Mais on parle de l'euro, est-il toujours aussi passionnant?
RMC, Rotten sans flamme.
C'était impardonnable, c'était pas le mot, hein. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable?
Faites entrer l'accusé.
Après-demain, donc, l'euro démarre. Et ça va être la troisième édition avec ce format de 24 équipes qui passe pas pour certains.
Merci Michel.
On l'a deviné avec Duga tout à l'heure. Donc, cette phase de poule où la plupart des troisièmes seront qualifiés, ça enlève de la pression à certaines rencontres, bien sûr. Mais en même temps, ça permet des belles histoires. Les petites nations qui découvrent la compétition et qui peuvent créer des surprises comme l'Islande en 2016.
C'était beau.
Le Danemark demi-finaliste en 2020. Et puis, on a une compétition très ouverte. Alors, l'UEFA est malgré tout accusée d'avoir tué sa compétition internationale. Et l'accusation est portée par le procureur Christophe Dugarry. Bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de l'UEFA, c'est quelqu'un qui a disputé un euro, donc forcément, cette compétition lui tient à cœur. C'est maître Jérôme Rotten, bonsoir.
Oui, bah alors, je vois pas pourquoi.
Bah quoi?
Dugarry, il en a joué, il l'a gagné. Et alors?
Ah oui, mais il a oublié, visiblement. La juge Louise Anessib est là pour trancher. Bonsoir, madame la juge.
Bonsoir.
Très bonne juge.
Allons-y, monsieur le procureur Dugarry, pourquoi l'UEFA fait n'importe quoi avec sa compétition?
Oh, l'UEFA, la FIFA, je pense que ça fait bien longtemps que le seul intérêt, le seul but de ces institutions, c'est de ramener le plus d'argent. Voilà, c'est leur seul et unique intérêt. Toutes les décisions, pour moi, qui ont été prises ces dernières années, n'ont servi qu'à ça. Voilà, à aucun moment on se pose la question de savoir si c'est mieux pour les joueurs, si c'est mieux pour les supporters. Est-ce que ça augmente, est-ce que ça améliore le niveau des compétitions? Ça n'a jamais été le but et l'intérêt. Voilà, moi j'en ai marre qu'on essaie de toujours niveler les choses par le bas. Voilà, une phase finale, c'est une phase finale. Moi j'ai envie de voir les meilleures équipes. J'ai pas envie, par exemple, sur ce championnat d'Europe, de voir des premiers matchs qui servent à rien. Les phases finales, c'est les phases finales. Voilà, moi je suis nostalgique des Coupes du Monde en 82 ou en 86, où tu avais 24 équipes, c'était les 24 meilleures. Et là, tu savais que chaque match, c'était au couteau, que chaque match, les joueurs devaient être prêts. Il n'y avait pas de match de préparation, il n'y avait pas de match. Voilà, parce que la semaine dernière, c'était encore pire. Eric Dimeco nous expliquait que les premiers matchs au championnat d'Europe seront des matchs de préparation. Ouais. Donc, c'est dire la mentalité que tout le monde a pour cette nouvelle compétition décidée et organisée par les instances. Voilà, les instances, une nouvelle fois, on est dans le même paradigme, la même logique, c'est d'avoir le plus d'argent. Et il n'y a que ça qui intéresse les clubs, les fédérations, les institutions. Voilà, c'est jamais pour le bien du sport, c'est jamais pour le bien des joueurs, c'est jamais pour le bien des supporters. C'est tout simplement abominable, c'est tout simplement pénible. Moi, j'en ai marre de voir ces compétitions. Alors, je les regarde parce que le foot, c'est ma vie, parce que j'aimerais ça toute ma vie, et puis que voilà, c'est ce qui me fait vibrer. Mais malheureusement, je vibre de moins en moins. Je trouve que le football des nations en perd à perdre perdu en qualité et je pense que c'est celui qui est devenu presque le plus faible. Il y a de plus en plus de matchs qui sont inintéressants et qu'on n'a pas envie de regarder, où les clubs se permettent, où les pays se permettent, les sélections se permettent de calculer forcément quand sur quatre équipes, t'en as trois pratiquement qui sont qualifiées. Comment tu veux apporter un peu d'exigence? Comment tu veux ne pas calculer? Comment tu veux ne pas préparer? Enfin, voilà, je trouve ça dommageable et j'ai pas compris ces nouvelles formules. Qu'est-ce qu'elles apportent en plus, si ce n'est de l'argent? Tu me parles, mon Jean-Louis, de bonnes histoires pour des petits pays. Je suis pas persuadé que amener ces petits pays-là à écrire un bout d'histoire dans des championnats d'Europe comme ça serve véritablement à quelque chose et serve au football en général.
Allons-y, Maître Roten, la défense.
Pour rebondir déjà sur la fin de Maître Dugarry, je vous renvoie aux images de la Géorgie avec Willy Sagnol, votre ami. Vous avez craché sur lui là, ça vous dérange pas. Mais moi j'ai été très heureux de le voir. Le vent frais de voir la Géorgie qualifiée.
Willy d'ailleurs.
Franchement, tout le pays a été mobilisé. Ils sont très heureux et ils vont découvrir l'euro. Mmh. Et c'est vrai qu'avec ce format-là, ça permet de découvrir nous ce genre d'équipe qu'on n'aura pas découvert il y a quelques années. Moi, c'est la troisième édition.
Mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas.
Oui, mais toi, parce que tu vois un foot de riche, un foot d'élite. Mais moi,
je veux un foot d'élite. Oui, je pense que les phases finales servent à ça.
Oui,
c'est une phase finale de championnat d'Europe ou une phase finale de.
Oui, mais après.
C'est pas l'école des fans. Ou alors,
chaque chose en son temps. Je pense qu'on découvre sur les matchs de poules des équipes. Jean-Louis, tu le disais, en 2016, on a découvert l'Islande. Mais franchement, c'était fabuleux pour ce pays.
Tu penses sincèrement que la Coupe des Confédérations, la Ligue Europa, enfin surtout la Coupe des Confédérations, tu penses que ce truc, pas la Coupe des Confédérations,
la Conférence League.
La Conférence League. Tu penses que sincèrement, ça sert à quelque chose?
Une nouvelle fois,
il y a plein de compétitions comme ça qui sont venues se
faire. Non, mais là, je suis là.
Ça ne sert à rien du tout.
Les vainqueurs, ils adorent l'Olympiakos. Même la Coupe des Confédérations.
Ouais, voilà, même la Coupe des Confédérations, ça sert à quoi la Coupe des Confédérations? C'est une blague aussi, c'est pareil.
Bah, elle existe plus, celle-là, maintenant.
Ouais, oui, non, mais ça servait à quoi? Mais
bien sûr, au bout d'un moment,
ils s'en sont rendus compte, ça sert à quoi?
Non, le Mondial des Clubs qui arrive.
Voilà, le Mondial des Clubs, super.
Par contre, là où je te rejoins, Duga, et qu'on a préparé l'émission, Jean-Louis, on en a parlé, il y a des choses. En effet, la Nation League, la Ligue des Nations, on a construit l'émission ce matin, oui, exactement, c'est construit, désolé. Et en construisant l'émission, donc, en effet, moi je suis contre la Ligue des Nations, on y comprend.
On demande jamais l'avis aux joueurs, est-ce que tu vois des joueurs importants s'exprimer et dire oui, on est d'accord, on demande l'avis aux joueurs.
Oui, mais je pense que les joueurs, du gars, pour en parler encore avec certains aujourd'hui, ils te disent, la Coupe du Monde et l'Euro, c'est pas problématique. Qu'ils aient ouvert à d'autres pays, qu'on découvre que ça soit encore plus de pays. Là, c'est la troisième édition à l'Euro avec 24 équipes. Ça nous permet en effet de voir par moment des surprises et ça rafraîchit un peu de voir des belles histoires. À l'arrivée, c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est les grandes nations qui gagnent de toute façon. Et que ça soit aujourd'hui ou il y a 20 ans, c'est comme ça ou il y a 40 ans.
Tu le sens pas, Jérôme, véritablement, sincèrement. Là, on fait pas on rigole pas. Tu sens pas le désintérêt de plus en plus du public, des gens pour entre les matchs qui sont diffusés. Alors, t'as une partie sur TF1, une partie sur M6, la partie totale sur beIN. Les gens sont plus au courant de rien. Tu sais plus, ils se désintéressent. En plus, c'est des périodes de vacances. Les gens se désintéressent de plus en plus de ces compétitions. C'est c'est ça que je trouve.
Je ne sens pas autour de toi. Non, mais là-dessus, t'as raison. Et c'est pour ça que j'aurais pu attaquer comme défendre en faisant l'émission. Quand j'ai vu du gars que t'attaquais, j'aurais pu moi les attaquer là-dessus aussi parce que l'attractivité que tu pouvais avoir au début d'un euro. Moi, en 2004, on parle de 2004. Nous, on a commencé par un France-Angleterre. Ah, le France-Angleterre, c'était fantastique. Tout le monde en parlait. Et ça faisait trois semaines que tout le monde attendait ce match contre l'Angleterre. Là,
et
c'est
puis,
vrai.
Tu te disais quoi? Tu te disais, si tu perds le premier match, t'es mal. Là, si tu perds le premier match, tu rigoles.
Tu peux te refaire. Après, il y a la jurisprudence là-dessus d'avoir franchement vibré en 2016. Peut-être parce que c'était en France et que la France a été loin et a été jusqu'en finale. En 2021, en effet, j'ai pas du tout aimé le fait. Alors, est-ce que c'était parce qu'il y avait 24 équipes et
qu'on a vu des matchs très moyens, ou le fait aussi que l'édition, elle était quand même dans plusieurs pays, parce qu'ils fêtaient les 100 ans de l'euro, c'est ça, hein, je crois, il y a 4 ans. Là, ça a été problématique parce que t'avais du mal à t'identifier à un pays, comme c'est le cas sur toutes les grandes compétitions. Là, je pars du principe que en Allemagne, un pays de football, ils sont heureux de recevoir l'euro. Je pense qu'on va se régaler, même si sur les premiers tours, il y a des affiches. Bah, ça nous fait pas sauter au plafond, mais c'est comme ça.
Ouais, moi, je pense que ça va être top.
Ah.
Je pense que l'euro en Allemagne, il peut être très bien. Après, je suis d'accord que le projet principal de l'UEFA pour l'euro à 24, c'était surtout d'augmenter ses ressources, en particulier sur les droits de diffusion, sur les recettes aussi de la billetterie et du sponsoring. Ça, c'est vrai que tout tourne autour des finances. Mais moi, j'ai envie plutôt de retenir un argument majeur en faveur du fait qu'on a la possibilité d'accueillir des petites nations qui vont conférer quelques diversités, l'ouvrir à un autre football. C'est aussi le principe de l'élargissement du football d'Europe. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs moins intéressants sur les premiers tours, mais ça nous permet de découvrir aussi d'autres nations. Mais après, sur les tours d'après, on aura des matchs beaucoup plus intéressants.
Bah oui.
Donc, j'espère. Je suis assez partagée, mais je suis aussi, et j'aime aussi, j'ai cette curiosité de pouvoir découvrir d'autres footballs, peut-être moins performants, mais ça permet à d'autres joueurs aussi d'avoir la chance à des joueurs talentueux, parce que par exemple avec la Géorgie, on a quand même de super joueurs qui vont y participer.
Vibré,
donc ça nous permet de les voir aussi sur une compétition internationale plutôt que de les voir tout le temps en club. Donc voilà, c'est de s'ouvrir à un autre football. Mais c'est vrai que sur les premiers matchs,
c'est des matchs très ennuyeux. C'est le seul argument qui est vraiment valable. C'est vrai qu'il y a, par exemple, avec la Géorgie, il y a des bons joueurs que tu as envie de voir se frotter au meilleur. Mais c'est le seul véritable argument. Tout le reste, c'est
le seul en termes de jeu.
Voilà.
Après, merci, tout Louisa. Ce qui tourne autour, c'est autre chose.
Merci Louisa de m'avoir fait gagner.
Jérôme.
Bravo.
Bravo Jérôme.
Attention, édition spéciale.
Ah bon?
Non, on n'a même pas un petit jingle parce qu'il y a un moment important. Restez avec nous à 19h. Quelqu'un a répondu directement à Jérôme Roten. Tu l'as incriminé ces derniers jours. En conférence de presse.
Pas mon ex-femme, quand même.
Alors... bah, rendez-vous à 19h pour
Je te calme tout de suite, ça sert à rien que t'ailles plus loin, j'ai plus rien, je peux plus te donner.
Rendez-vous à 19h.
Tu m'as tout pris.
Pour comprendre. En attendant, dans une seconde, le casar enchaîné, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h45 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On continue l'émission, on finit la première heure avec le moment de Julien Cazard. Et après 19h, oui, l'euro symbolique, notre grande opération de la semaine, en plein milieu de semaine, l'euro 2000 avec Christophe Dugarry, ça tombe bien, il est là, il nous racontera tout sur cet euro 2000. On est aussi avec Louisa Nessib et avec Jean-Louis Tour.
Plus le règlement de compte avec toi, Jérôme, d'un acteur du foot.
Ah bon?
Et l'expérience RMC pour assister à France Pays-Bas. C'est toujours pas tombé.
Non.
Le cocorico n'est toujours pas tombé. Dès qu'il tombe, vous envoyez euro 732-16 et vous allez assister à France Pays-Bas.
C'est Roten sans flamme.
Le casar enchaîné.
L'artiste. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va les copains, ça va les copines, hein, puisque...
Salut. Ça va
très bien, voilà. Votre opération euro symbolique, c'est pas sur les droits TV. C'est parce que ça coûte. Ok, d'accord. Non, je voulais dire parce que j'étais pas sur le truc. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes
les cadeaux de Jérôme depuis le début de Roten sans flamme.
Oh, il lance, ça balance avant les vacances. Tiens, c'est
quoi
le tir gratuit. Là, t'écoutes pas. Je vais te dire, Jérôme, heureusement que t'écoutes pas ce que dit Jean-Louis. Sinon,
des cadeaux. Pourquoi il faut que je fasse un cadeau
à toute l'équipe de Roten sans flamme?
Oui, d'accord.
Exactement. Ouais.
Ah, en tout cas, Ruquier, lui, il en fait. Ruquier, c'est un mec super. Il invite les gens pendant une semaine en vacances en Grèce, au Maroc et tout.
Et il part pas, lui, en vacances déjà. Qu'est-ce que vous qu'il invite?
On les invite à Châtenay-Malabry ou à Ville d'Avray. Tu sais, dans la maison de campagne de ses beaux-parents. Non, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 12 juin 2024 et l'Autriche n'a toujours pas de blessés dans la liste des 26. Il reste encore quelques jours.
À Alaba avant.
Oui, c'est vrai. Il y avait quand même à Alaba. Oui, ça compte un peu, c'est le meilleur. Mais bon, il reste quand même du Danso, du Sabitzer, tu vois. Bon. Après, il reste quelques jours encore pour qu'on apprenne une entorse, une luxation, une fracture, une pubalgie, un rhume, des foins, une chaude pisse. Mais en attendant, 5 jours, c'est peu. Et c'est beaucoup à la fois, on sait, avec Dédé. En attendant, les prochains adversaires des Bleus, s'il y a les Pays-Bas, qui viennent de perdre donc sur blessure De Jong et Kop Meiners.
La chatte,
Et la Pologne a perdu Milik et Lewandowski.
La chasse, voilà.
Donc pour l'instant, tout se passe exactement comme prévu. La prépa est nickel. C'est ça la prépa. C'est pas des entraînements, les autres qui font. Mais j'aime même foutre de la prépa. Hop, on observe ce qui se passe en face. Aujourd'hui, 12 juin, c'est l'anniversaire de Massian Diabaté. Alors, qui joue où, Massian Diabaté, Jérôme?
Je sais pas.
Une idée. Ok, du gars, il joue Massian Diabaté.
Je sais pas.
Et ben voilà, ils savent pas. Ah, Louisa peut-être. Louisa?
Non, je sais pas.
Et, voilà. Et ben voilà, il vous dit rien. Évidemment, il joue nulle part. C'est un historien. Il est historien, écrivain malien. Ah bah, mais on est sur RMC. On dit jamais, je sais pas. On tente une réponse. On a rien à foutre d'avoir la vraie réponse. Depuis quand?
On est fait ton ballon parce qu'on a rien dit.
Ah non, c'est ça, mon
effet. Parce qu'on est honnête. C'est fou.
Mais non, mais parce que la fierté d'RMC, c'est de dire un truc même quand on sait pas. Parce que est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que vous dites un truc, c'est parce que vous savez? Vous en êtes vraiment sûr de ça? Mais non, RMC, on connaît pas un sujet, on n'en a aucune idée, on n'a pas les tenants, les aboutissants, mais on en débat pendant des heures.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Voilà, c'est ça, RMC.
Pas que dans Estelle Midi. Là, t'es pas,
pas que, non, pas que. C'est le principe de cette radio. Et depuis, tu imagines là, les gens, ils sont sur RMC, ils entendent 4 personnes dire je sais pas une question. T'imagines l'angoisse de mec qui dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, mon système RDS de la voiture a déconné.
Non, le vrai problème, c'est que nous, on a 3 anciens joueurs ou joueuses qui parlent de leur sport.
Oui, oui.
On tue un peu le métier.
Alors, attention, c'est vrai qu'ils parlent pas de sujet. On les force jamais à parler d'un truc qu'ils aiment pas, nous. Bah, sauf que c'est pas vrai. Parfois, on parle de foot féminin. Personne regarde le foot féminin. Même Louisa, la pauvre.
Mais si, moi, je regarde le foot féminin.
Oh, bien sûr.
L'autre fois, tu savais pas qui avait marqué.
Tu savais pas qui avait marqué.
Non, je ne savais. C'est vrai. Mais pourtant, j'avais regardé le match. Parce que pour être très honnête, j'avais préféré la perf des Anglaises. Voilà.
Ah ouais. Ben voilà, ça c'est le patriotisme à la française, bravo.
Louisa, j'ai peur que ça te poursuive quelques semaines, cette histoire.
Entre autres, hein.
Oh, c'est pas grave.
Je rappelle qu'il y a un casard noir qui va peut-être tomber pour Louisa. Voilà, donc oui, alors, dernière chose, le 12 juin, c'est aussi, alors rien à voir, hein. On parlait du débarquement il y a peu, hein, ouais. Le débarquement en Normandie, c'est pas l'arrivée de Jérôme Rotten de l'INF Clairefontaine à Caen, c'est autre chose.
Non, je te confirme.
Et il se trouve que le 12 juin, c'est la date de naissance d'Anne Frank, la petite fille qui a vécu l'enfermement dans des combles pendant des mois pour échapper aux nazis. Et alors, c'était pas aussi atroce que ce qu'a vécu Kylian Mbappé, car rappelons-le, lui vraiment,
lui était malheureux.
Kylian, qu'on appelle aujourd'hui Natacha Campus au Paris Saint-Germain, rien n'est comparable à ce qu'il a vécu et on ne souhaite encore une fois à personne de vivre ce qu'il a vécu. Moi, je propose que sur les prochains matchs, les joueurs aient un patch sur le. Tu vois, et là, tout le monde le mettra parce que tout le monde est d'accord pour dire que ce qu'il a vécu, c'est insoutenable à les sommaires. J'ai eu du mal à m'en remettre. Nous sommes mercredi et c'est la 3e soirée de remise des casardins.
RMC, Rotten sans flamme, les Casards d'or.
Et oui, on est. Faut jamais faire l'économie d'un moment d'autolipette. Voilà, donc c'est important. Donc les Casards d'or.
Quelle est la catégorie?
Alors d'abord, il nous a été demandé hier.
Ah oui.
De repasser
l'Alzheimer
de l'année d'avant,
oui.
Qui était sublime parce que c'est peut-être un des meilleurs et sera dur à détrôner. c'est celui de Gilbert avec les voitures des joueurs. Écoutez,
j'ai reçu une étude sur les footballeurs et leurs voitures. C'est-à-dire que par exemple, les gardiens de but majoritairement, ils veulent conduire des SUV, des gros SUV, alors que les attaquants, ils veulent de la voiture de sport.
La voiture de course.
Ils veulent de la Ferrari.
Bien sûr.
C'est fou quand même.
Ça m'étonne pas, je sais pas pourquoi.
Et les gardiens, à ton avis?
C'est d'une violence.
Ah, c'est dingue.
Non, parce que
c'est dingue.
Quand à un moment, si un autre parle, il a pas écouté, peut arriver. Le mec, il vient de te faire une démonstration sur les SUV.
C'est fabuleux.
Et les attaquants et les gardiens.
Et les gardiens, à ton avis.
Bah, tu viens de le dire, non?
Ah bon?
Il est en bout de course. Hein.
Non, pas du tout. On est tous en pleine forme, je vous le dis.
Il a quand même fait un doublé, hein, parce que cette année, c'est lui encore.
Ah, c'est encore le nommé. Là, on va faire le casard d'or de l'enflammade. Il y en a eu des très belles. Il y en a eu des très belles. Alors, tu vois, on parlait de foot féminin. Quand tu commandes du foot féminin et que t'es une ancienne joueuse ou une commentatrice, peut-être que tu t'emballes. Et quand on monte, ça fait pas pareil que dans le football masculin.
Eugénie, le sang. Oh, c'est magnifique!
C'est vachement bien.
C'est un peu sexiste. Ah oui.
Ah oui, il l'assume.
Il s'y attendait pas. Et bien sûr que c'est absolument sexiste. On est sur RMC.
Qui, ça
je le rappelle. Hein,
c'était qui là au
Je sais pas, mais très bien.
Ouais,
bah ça c'est.
Un homme t'aurait donné son nom, etc. Là, tu sais pas.
C'est vrai que là, t'as pas.
Moi, c'est à part Biggerstadt.
Ah, d'ailleurs, c'est lui le champion des champions de l'enflammade.
Le champion des champions de l'enflammade. Alors lui,
on pourrait l'écouter aussi.
C'est le Sergei Boubka, c'est le Duplantis.
Ah, c'est lui.
C'est, est-ce qu'on peut. On peut se le faire écouter pour la fin, on verra.
Ouais, à la fin.
Lui, c'est un saut à 7 mètres, ouais, t'as raison.
Sinon, quatrième position, il y a évidemment celui qui a mis quand même la barre assez haut en début de saison, Simon Dutin. Après, il parlait d'un grand joueur.
Tu vois, je suis sûr qu'un Del Castillo.
Brassier aussi, tous ces gars-là, moi, pour moi, ils sont aussi.
Del Castillo, tu le mets n'importe où, dans n'importe quel club d'Europe, il ne sera pas ridicule. Il serait capable de jouer dans n'importe lequel.
Ah ouais. Qui ça, tu dis?
Del Castillo.
Ce qui est génial, c'est le mec qui dit j'ai pas entendu. Qui c'est Simon Dutin, Génération After.
Je pense
que
Oussem
se dit j'ai raté un moment, j'étais sur Del Castillo, tu parlais de qui toi?
C'est Walid, je crois.
C'est Walid.
Non mais il est allé plus loin. Peut-être on va l'entendre après, non?
Non, je crois.
Mais il est allé plus loin. Il a dit qu'il serait titulaire à la place de Bernardo Silva.
Non, ça c'était dans l'open space.
Ah oui, oui.
Il a pas dit à l'antenne. Il était revenu sur ça.
Mais il est de sa famille. Del Castillo.
Moi, il m'avait dit. Après, il m'avait dit Del Castillo. Tu le mets à la place de Bernardo Silva à City. Tu vois pas la diff.
Oui, voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est après? On n'a pas la preuve qu'il a tort.
Bravo Simon.
Ouais, troisième position.
Non mais c'est des gens comme ça qu'il faut dans le foot, des nouvelles idées, tu vois, ils me seraient vraiment.
Mais il a des convictions.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Après il faut qu'on crée du débat hein.
Mais il a ses convictions, c'est tout.
Oui, la terre est plate, tout ça. Et on a Gautreau qui a été Florent pas mal. Gautreau. Flo Gautreau, ouais, ouais. Flo Gautreau. Ouais. Très bien sur Guardiola. Très très bien.
Un formidable manieur de langue de bois pour ne pas entrer dans ces débats-là. Toutes les fameuses conférences de coach qu'on a entendues récemment, depuis Guardiola jusqu'à Le Bris en France. I believe
I can fly. Qu'est-ce qui se passe avec Le Bris? À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il a quand même envoyé son équipe en Ligue 2. Mais il est dans les mêmes phrases que Klopp, Guardiola, Bielsa, Mourinho.
Guardiola, Le Bris. Oh.
Évidemment, celui qui a vraiment lancé la hype, Le Bris. C'est Thibaut Leplat. Il a des coachs.
Ah ouais,
du gars qui s'est dit, mais qu'est-ce que c'est devenir RMC depuis que je suis parti? Il disait, c'était déjà chaud avec Luis Fernandez, mais alors là, on a.
Non, ouais.
Thibaut Leplat, il a des coachs fétiches. Mais, oui. Et pour les joueurs, là, il a bon goût. Ouais. Il est plus mesuré.
Bien sûr.
Il est vraiment dans. Souvenez-vous de ça.
Il y a des joueurs qui sont sortis du placard. On n'attendait plus du tout à ce niveau, quoi. Même Melvin Barr, pour moi, c'est un des derniers prodiges du football contemporain.
Non, mais vous les trouvez où, là, ces artistes-là? Non, c'est qui les DRH?
On parle de Melvin Barr, l'arrière gauche remplaçante de OGC Nice.
Il a dit un des derniers prodiges.
Alors, allez, une dernière avant.
Le vainqueur,
c'est aussi Thibaut Leplat. Hein. Écoute,
c'est bravo, l'histoire Thibaut. Un peu du millionnaire qui s'achète une Lamborghini. Et là, la Lamborghini, c'est Le Bris.
Je veux juste, j'en ai un pour un dernier, rapide. C'est le bonus de c'est le casard d'or de la franche camaraderie qui est décerné à Louis Anessib. Un joueur qui a porté la moustache. On commence par toi, Jérôme.
Raymond Domenech,
c'est bon.
Christian Lopez,
c'est bon.
Louisa,
une fois.
J'en ai encore.
Louisa, deux fois.
Je sais pas. Sonia Bonpastor.
Bravo. Merci Julien, bravo Louisa.
C'est une des meilleures,
celle-là. RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Dans une seconde, l'euro symbolique de Christophe Dugarry, l'Euro 2000 en détail avec la Dream Team et la réponse du clash terrible entre Jérôme et un président de Ligue 1.
RMC, Roten sans flamme. Un euro symbolique. L'Euro 2000.
19h03 sur RMC. Oui, vous êtes bien sûr à RMC. On refait l'Euro 2000, notre grande opération, les euros, avec Christophe Dugarry qui a participé et qui nous a donné de la joie, forcément, parce que c'est un euro incroyable. Peut-être le plus bel euro de l'histoire de l'équipe de France. On est avec Louis Anessib aussi pour analyser tout ça et pour écouter attentivement ce que va nous dire Christophe Dugarry. On est avec Jean-Louis Tour aussi. Restez bien avec nous. On est jusqu'à 20h. Il va tout nous expliquer.
Il va tout nous expliquer.
Tout ce qui s'est passé.
Et en plus,
fabuleux. Quelle équipe, quelle famille,
tout ce dont je me souviens.
Oui. Bon, ça va durer une demi-heure quand même. Hein. On va t'aider. Dans cette deuxième heure, attendez-vous plus d'engagement.
Une demi-heure. Hein.
D'accord, c'est fini. Ça. Attendez-vous plus d'engagement hors foot des joueurs de l'équipe de France. Vu la situation politique du pays depuis dimanche, doivent-ils davantage parler politique, appeler à faire barrage au Rassemblement National, par exemple, comme Zidane l'avait fait en 2002. Eh bien, vous entendrez que certains joueurs de l'équipe de France ont pas du tout ça en tête. Vous pourrez nous appeler au 32-16 pour monter sur le ring des supporters. Il y aura le quiz avec une enceinte à gagner. Vous envoyez top au 732-16. C'est tout à l'heure. Il y a l'expérience RMC aussi. Les places pour France-Pays-Bas, ça peut être pour vous parce que l'alerte n'est toujours pas tombée. Donc soyez bien attentifs. Dès que le cocorico tombe, vous aurez 5 minutes pour envoyer euro par SMS.
C'est dans pas longtemps qu'on va essayer.
Et en plus, vous gagnerez donc le voyage à Leipzig, l'hôtel, la rencontre avec les équipes et donc les deux places pour France-Pays-Bas. Et puis, il y aura la réponse de ce président de Ligue 1 qui aime pas trop Jérôme en ce moment. Ce sera tout à l'heure à 19h30.
Moi, c'est clash.
Et puis, alors, juste quand même, je vous donne les infos. Il y a entraînement de l'équipe de France en ce moment. Nos reporters, Arthur Perrault, Fabrice Hawkins, nous indiquent que Théo Hernandez était rentré au vestiaire alors que la séance poursuivait. Donc, on n'a pas plus d'indications que ça. On sait qu'Olivier Giroud a pris un coup à la cheville. Bon, a priori, pas grand chose. Que Griezmann a lui aussi pris un coup à la cheville et lui il discute avec les kinés. Petite alerte pour le français, même s'il continue la séance. Au moins vous avez les infos et on va surveiller ça.
Ils sont dedans, ils se mettent des pains, c'est bien.
Ouais, là ils sont visiblement. Ouais. Ah ouais. Mais là tout de suite, on n'est pas en 2024, on est en l'an 2000.
Ah ouais.
Quand vous dites tout le monde croyait qu'on était mort, tout le monde, ça veut dire les joueurs aussi?
Je parle plutôt par rapport aux Italiens, ils étaient en train de nous chambrer, on entendait des olés.
Est-ce que vous attendiez à la difficulté de cette rencontre?
Ouais, on sait bien que les Italiens, ils ne commettent pas d'erreurs. Et puis à partir du moment, sur la moindre occasion, ils ont réussi à marquer, après ça devenait difficile.
Le quota!
Parlez bien Didier Deschamps.
Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'était clair, c'était fluide Didier Deschamps. Qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Il n'y a eu aucun bug. C'est incroyable. Bon,
je sais pas.
On va donc vous raconter en détail cet Euro 2000. Ouais. Peut-être la compétition qui a donné le plus d'émotion dans les matchs. Il y a eu de l'émotion sur les premières victoires et tout, mais dans le contenu des matchs, il y a eu des trucs incroyables, des scénarios fous. Alors, on a mis I Will Survive parce qu'on est 2 ans après le titre de champion du monde. Et donc, cet Euro a lieu aux Pays-Bas et en Belgique. Et donc, Duga, je t'ai déjà entendu le dire, mais c'est le rôle le plus abouti dans le jeu de cette génération?
J'ai l'impression, c'est les souvenirs que j'en ai. Alors après, peut-être que pour les autres, ce sera des souvenirs différents, mais j'ai l'impression que notre effectif est encore plus étoffé que ce qu'il était en 98. Plus de joueurs confirmés, je pense notamment à deux joueurs importants que sont Trezeguet et Henry, qui ont deux années de plus.
Et Nico Anelka, que je t'ajoute, qui est titulaire sur pas mal de matchs.
Exactement, Nicolas Anelka également, Patrick Vieira aussi au milieu de terrain. Enfin, beaucoup de joueurs arrivent un petit peu plus à maturité. Et puis je pense surtout entre ceux qui arrivent, qui sont très talentueux dans le groupe, et ceux qui sont déjà là, qui ont pris 2 ans de maturité, qui ont pris de la confiance aussi avec ce titre de champion du monde. C'est, alors je vais dire une banalité, mais c'est vrai que c'est y a une véritable ambiance, il y a un groupe qui vit excessivement bien et qui n'a pas trop de difficultés justement à accueillir les nouveaux joueurs qui s'incorporent assez rapidement. maintenant. Il y a deux générations dans cette équipe avec les très jeunes, Trezeguet, Henry, et puis les un peu plus anciens avec Blanc, avec Deschamps, les autres. Donc il y a de la place un peu pour tout le monde dans cette équipe. Et c'est vrai qu'il y a Johan Mikou aussi, je me souviens. Oui. Il y a vraiment un effectif, un gros effectif avec des très très bons joueurs.
C'est ça, rencontre de génération. Avec ouais. Roger Lemaire à la tête ouais. des Bleus, puisqu'il va
aimer prend la suite.
Prend la suite, voilà, exactement. Et alors, c'est même la, si
ça a changé des choses, ça, dans la gestion, parce que est-ce que
Roger,
ouais.
Bah, Roger, c'est un personnage. Hein. Roger, ah ouais. Roger, il est particulier. Alors, tu peux penser que quand tu mets Roger, l'adjoint de Aimé Jacquet en 2000, tu vas faire du Aimé Jacquet. J'irai pas jusque là. J'irai pas jusque là. Il a sa personnalité, il a sa façon de voir les choses. Il a
caractère.
Son caractère, oui, c'est quelqu'un d'assez impulsif. Hein. C'est un militaire de base, donc il est un peu vindicatif. Il est parfois un peu spirituel aussi. Il analyse des choses un peu à sa manière aussi. Parfois, il est un peu aussi dans ses nuages. Roger, on comprend pas toujours où est-ce qu'il veut en venir dans ses discussions de match. Voilà, mais il y a un groupe quand même assez établi, il y a une hiérarchie assez établie, il y a des relais assez importants, je pense à Laurent Blanc, je pense à Deschamps, je pense à De Saïs, je pense à Zizou, je pense
mais
à
est-ce qu'il est responsable du gars du fait que vous jouez mieux Roger Lemaire ou c'est vraiment vous qui avez pris le lead quoi, tu vois? Par rapport à 98 parce que franchement, il y a quand même une grande différence en termes de jeu et je le dis hein.
Mmh. Oui, bah je pense qu'il y a plus d'armes offensives. Donc c'est plus facile pour Roger de faire appel à ses armes offensives. Il y a un panel de joueurs différents, voilà, que l'on n'a pas forcément en 98. Voilà, le point fort c'est le milieu de terrain et la défense en 98 et en 2000, on commence à être offensivement assez intéressant. On sait qu'on va marquer des buts, on sait qu'on est capable de créer du jeu spectaculaire. Oui.
Alors pourtant, vous galérez avant la compétition. Mmh. Vous galérez pour vous qualifier. Il y a ce fameux match face à Andorre où il y a 0-0 pendant longtemps et il faut un pénalty de Franck Leboeuf pour gagner.
Et Dugas expulsé.
Dugas expulsé contre Andorre, voilà. Ah. C'est arrivé rarement, mais voilà.
T'avais pas dû dormir de la nuit, t'étais nerveux. Voilà.
Et il y a ce fameux dénouement où en fait vous gagnez contre l'Islande et par miracle dans le groupe il y a nul entre l'Ukraine et la Russie et hop qualifié à la première place. Donc ça a pas été simple. C'est dans cette période où il y a aussi cette fameuse victoire en Angleterre où on n'avait jamais gagné
avec Anelka
avec
qui
le doublé de Nicolas Anelka.
Double Anelka, oui, effectivement.
Et donc arrive cette phase de groupe avec donc le Danemark, la République Tchèque et les Pays-Bas.
Donc qui sont de très très bonnes équipes.
Ah ouais, exactement. Ouais. Bah, de toute façon là tout le parcours c'est que des bonnes équipes.
Exactement.
Et donc ce que tu disais tout à l'heure, il y a la base de 98, Barthez, Thuram, Blanc, De Saïd, Lizarazu, Deschamps, ça a pas bougé, Djorkaeff, Zidane. S'ajoute Henri Anelka devant, Manu Petit aussi au milieu. Et puis donc victoire contre le Danemark 3-0, contre la République Tchèque 2-1 et France Pays-Bas défaite 3-2 sur ce match. Tu gardes quoi comme souvenir de cette phase de poule?
Des matchs accrochés, très accrochés, mais une équipe de France solide. Patrick Vieira en pleine forme, Zizou, Djorkaeff, enfin voilà, tout le monde est à son maximum. Moi, j'ai souvenir que c'est vraiment des gros matchs. Ce troisième match, on le perd parce que Roger fait totalement tourner l'équipe.
Ouais, ouais, oui.
Sachant que voilà, à l'époque, cette compétition se joue en Belgique et aux Pays-Bas, donc on joue au stade de l'Ajax. Je me souviens plus le nom donc voilà, ouais. c'est un match qui on n'est pas obligé de le gagner. Mais même sur ces matchs un peu de match de coiffeur, on montre qu'on a un effectif large et de qualité parce que faire 3-2 à domicile face aux Pays-Bas, c'était loin d'être évident. En plus peut-être qu'on mérite de gagner ce match, donc oui, mais on sent qu'on est solide, quoi. On n'est pas sur la défensive, on peut prendre des buts, mais on est serein, on sait qu'on peut en marquer. Voilà, on a vraiment étoffé notre jeu, ça c'est certain.
Louisa, tu voulais dire un mot?
Non, je disais juste que sur ce troisième match, ils étaient qualifiés à la fin des deux premiers, quoi. Donc du coup, il y a eu un turnover sur le troisième.
Oui, exactement, exactement,
exactement.
Et puis alors moi, je me souviens qu'à l'époque, on disait ça, mais Dugas, tu nous l'as déjà contredit, mais qu'on était mieux dans une partie de tableau et que si on perdait, c'était pas si grave non plus. Ça nous évitait d'être du côté, je sais plus qui, de l'Italie,
ouais. L'Italie
en finale, mais que c'était un peu plus dégagé. Mais bon, le match, vous l'avez fait quand même à 100%.
Bien sûr. Bah nous, en plus, on joue notre place.
Hein, bah c'est ça, ouais.
Et puis là, il y a une espèce d'effervescence qui se crée. Quand tu vois les deux premiers matchs qui sont arrachés, il faut se battre. Et puis voilà. Et puis t'as envie de montrer, quoi. T'es pas là. Même
c'est quoi ta place, toi, tu gars?
Dans le couloir. Moi, je joue couloir gauche.
Ouais.
Ouais, je joue couloir gauche, alors milieu, ailier,
voilà, ouais, côté gauche. Ouais.
Mmh. Voilà. Bah, c'est ouais. Ça. Et bah, d'ailleurs, t'as été tellement bon sur ce troisième match que t'es titulaire contre l'Espagne au match d'après. Et bah, là, déjà, on commence les matchs à émotion, puisque donc, vous gagnez 2-1, but de Zidane et de Djorkaeff. Il y a pénalty raté de Raoul. Et les souvenirs que j'ai, moi, c'est Thuram qui prend le bouillon, une des rares fois à cette époque-là où Thuram était autant mis en difficulté.
Oui, il y avait un petit là qui s'appelait Mounitis, exactement.
Ah oui.
Il
fait petit gaucher,
petit, là, petits appuis, exactement, petit gaucher. On souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette équipe d'Espagne est redoutable. Sincèrement, on s'en sort très, très bien. On mérite certainement pas de gagner ce match. Mais une nouvelle fois, malgré tout, c'est des matchs enlevés, c'est des matchs de haut niveau, c'est des matchs avec des grands joueurs partout. C'est, je crois, Youri Djorkaeff qui marque un but, un but exceptionnel sous la barre avec une frappe de 25 mètres. Le ballon, au moment où il va frapper, tu vois, le ballon juste qui rebondit, ce qui lui permet la pente.
Un peu à la Djorkaeff, ce but d'ailleurs.
Coup du pied, oui.
Il aimait bien ces frappes-là.
Ouais, c'est ça.
Donc là, on passe en demi.
Et là, je me fais casser le nez, ouais, sur ce match-là. Un coup de coude avec un défenseur du Barça, je me souviens plus son nom.
Ah.
Ouais, je me fais péter le
nez. Un ancien partenaire que tu as retrouvé.
Tu te fais opérer ou juste pas déplacé?
Non, juste le nez dévié.
Mais quoi, c'est une maladresse ou il y a eu un peu de...
Non, sur un coup de coude, sur un ballon en l'air, un ballon aérien, voilà, je prends un coup.
Mais c'était pas volontaire, je veux dire, c'est...
Ah, tu sais jamais. Hein.
Ah, on sait jamais. Donc tu crois que c'était
un duel aérien.
Voilà, donc je finis le match. Je finis le match malgré tout. Voilà, et après le match d'après, je crois que c'est
la demi-finale contre le Portugal.
Face au Portugal. Ouais.
Et là, t'es pas là, effectivement. Tu te remets le nez, visiblement.
Oui, exactement.
Cette demi-finale, on en parle dans une seconde. Là aussi, scénario incroyable. Et puis, on va quand même parler de cette finale. Cette émotion de fou. Allez, à tout de suite.
Grand Mendes.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, Rotten sans flamme. Un euro symbolique. L'Euro 2000.
19h17 sur RMC. Oui, vous êtes bien sûr RMC. On refait l'Euro 2000 avec Christophe Dugarry, avec Louis Anessi et avec Jean-Louis Tour. Vous, les auditeurs, vous allez appeler dans un instant aussi pour participer à ce débat et au souvenir de Christophe Dugarry. On est là, on est bien encore. Oui, une bonne demi-heure d'émission. Donc on a le temps de tout raconter.
On est à la demi-finale de cet Euro 2000. France-Portugal. Et là encore, donc scénario incroyable, puisque ce sont les Portugais qui ouvrent le score. Nuno Gomes qui marque. Égalisation de Thierry Henry, qui jouait devant avec Anelka, donc.
Et Portugal, ils ont une sacrée équipe aussi. Hein.
Ah oui, grosse équipe avec Rui Costa, Figo. Là, c'est du lourd. Et donc, on attend la 117e minute à Bruxelles pour donc voir cette main d'Abel Xavier.
Ouais.
Qui a fait une polémique terrible pendant des mois et des mois au Portugal. Je pense qu'il y a main.
Oui, il y a main. Non, mais eux, ils te disent que non.
Il y a main, mais ils disent qu'elle n'est pas volontaire parce qu'il est en train de tomber à moitié. Bon, voilà. Il y a pénalty.
Oui, mais il élargit sa surface de corps. C'est-à-dire, s'il n'a pas les mains là, le but, il rentre parce qu'il est sur la ligne.
Exactement. Donc, dans la trajectoire du tir de.
Voilà, il aurait été ailleurs. Je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Mais là, à partir du moment où il est sur sa ligne et qu'il élargit sa surface de corps, bon, il n'y a pas de sujet.
Et là, le patron arrive pour tirer le pénalty. Alors, à cette époque-là, donc, il y a donc cette fameuse règle du but en or. Si vous êtes jeune, peut-être vous connaissez pas.
Bah, génial. C'était
un but en prolongation et c'est terminé.
Ah, c'est dingue.
L'équipe qui marque a gagné. Donc, ça a été notre truc, ça. Hein. Ça a duré que quelques années, mais nous, la France, c'était notre truc.
Oui, on en a profité. Ouais.
Donc là, Zidane marque le pénalty et donc nous envoie en finale face à l'Italie. Qu'on a déjà sorti...
Attends. Quand il marque, Zidane, il va vers qui, du gars ?
Il va vers qui ? Je me souviens plus.
La main levée.
Je me souviens de sa main levée, effectivement.
Oui, aussi,
main gauche levée, mais je ne sais pas.
Tu sais plus.
Non, je ne me rappelle plus.
Ah, je pensais qu'il venait vers toi, en fait.
C'est possible, je ne me souviens plus. Ah, je ne me souviens plus. Je sais que à la Coupe du Monde en finale, oui, mais quand il marque de la tête. Mais là, je me souviens plus. C'est possible.
Je vais voir Candela, je crois, en demi.
C'est possible aussi.
Mais
souvenons-nous quand même de ce match de Zizou. C'est un des matchs référence en équipe de France de Zizou, où il était, c'est un balai. Il fait un balai tout au long du match. Il est aérien, il est artistique, tout ce qu'il réussit, tout ce qu'il fait, il est gigantesque sur ce match. Les Portugais sont effondrés, sont dégoûtés. C'est du grand, très grand Zidane qui font partie. Je suis persuadé que ça fait partie, si on lui posait la question, de ses cinq plus grands matchs en équipe de France. Ouais.
Je lui poserai la question quand je le verrai.
Ouais, tu lui demanderas, bien sûr. Alors, la finale contre l'Italie, donc notre adversaire un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup de joueurs français qui sont en Italie ou qui sont passés en Italie à un moment. On avait déjà eu ces réflexions 2 ans avant pour le quart de finale de la Coupe du Monde. Donc là, ils nous connaissent par cœur et ils nous posent beaucoup de problèmes.
Le reste en travers. Moi, Jean-Louis, rappelons-nous qu'en quart de finale en Coupe du Monde en France, ils perdent au pénalty sur un pénalty raté. Donc
exactement.
On se qualifie comme ça.
Et donc, ils ouvrent le score. Et pour le coup, autant on a dit beaucoup de bien de cette équipe de France dans le jeu, mais sur cette finale, on a beaucoup de mal.
Pas bon. Match fermé, les Italiens mettent beaucoup, beaucoup d'agressivité. Moi, je me souviens, j'ai encore le nez un petit peu fragile et je reprends un ballon en pleine tronche à ces Cannavaro là, qui m'allume. Je vais pour contrer un ballon et je suis à 1 mètre de lui. Il m'envoie le ballon en pleine tronche. Ah, bon, enfin, voilà. Et tu vois que le match, il va se jouer dans la tête, dans les yeux, dans la provocation. Après tous les matchs avec les face à l'Italie, on est des frères ennemis, donc on se connaît tellement bien. Voilà, c'est la même chose en 2006. Souviens-toi, il y a toujours des scénarios rocambolesques. Ça se passe toujours comme ça avec les Italiens et c'est rarement des très grands matchs aussi.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est le scénario est
alors,
fou. Quoi,
en face l'Italie, c'est avec tu l'as dit, Cannavaro, mais aussi Nesta, Maldini, Albertini, Totti. Del Piero est même remplaçant, Del Vecchio qui marque, donc Toldo dans les buts qui paraît infranchissable sur ce match. On a du mal à avoir des occasions. Changement tactique de Roger Lemaire qui va avoir son importance puisqu'il sort Vicente Lizarazu, l'arrière gauche, pour mettre Robert Pires. Donc là c'est quand même hyper offensif. Plus donc Trezeguet à la place de Djorkaeff et toi tu sors pour Wiltord.
Pour Sylvain.
Et donc là, on retrouve tous les protagonistes, les trois, de cette action décisive. Donc, dernière seconde vraiment des arrêts de jeu.
C'est incroyable.
Coup de génie de Roger, effectivement. Alors, les Italiens, un peu suffisants, certainement, on les voit. Alors, moi, je suis sur le banc de touche à ce moment-là et on les voit commencer à se préparer.
Célébrer,
tous debout, les cheveux, à commencer à se gominer un peu les cheveux, mettre un peu d'eau dans les cheveux pour être beau sur la photo. Donc,
tu penses que c'est mort, toi?
Oui. Oui, on sent qu'il y a une espèce d'effervescence, les Italiens qui chantent, qui se préparent, on sent qu'ils se préparent à recevoir la coupe.
Mais oui.
Et c'est vrai qu'il y a une espèce de sprint, de dribble chaloupé de Robert Pires qui envoie David Trezeguet marquer ce but et qui s'arrache. Oui, c'est un scénario fou.
C'est ça. L'égalisation donc de Wiltord, 94e.
Ouais.
Mais là aussi, c'est une espèce de frappe.
Dégagement de Moisy,
Dégagement de Barthez, je crois, déviation de Trezeguet.
Ouais, c'est ça, il y a une déviation.
Le ballon rebondit, on ne sait pas comment il arrive là à Wiltord, effectivement.
C'est Toldo,
qui se rate un peu. Qui est un très grand gardien qui doit faire presque 1m95.
Il apprend sous le bras, là, je sais pas.
Il doit mettre le pied.
Ouais.
Un peu du mal à se baisser tellement il est grand, ou tout du moins pas assez vite. Ouais. Et sur une frappe un peu pourrie qui permet d'égaliser. Mais déjà, cette frappe, elle sort de nulle part. Alors, Sylvain avait l'habitude, comme ça, de marquer des buts un peu en renard de surface. C'était un redoutable attaquant, hein, Sylvain Wiltord. Il a mis énormément de buts dans sa carrière. Donc,
Jean-Louis, le grand gardien qu'il est, il vient de te dire. Hein,
moi, c'est ce que j'ai entendu à l'époque.
Il veut mettre le pied.
Non, il veut mettre la main.
Il veut mettre la main au lieu de mettre le pied.
Alors, s'il met le pied, c'est réglé. Et on n'est pas champion d'Europe parce qu'on va finir champion d'Europe.
Merci pour cette analyse.
Puisque donc, il y a le débordement de Pires. Non, mais tu reverras le but.
Non, mais je te crois. Bah, attends, moi.
Débordement.
Quand tu parles de gardien.
Non, hier, tu m'as dit que tu étais meilleur que moi au but. J'ai été très vexé quand même. Là, j'avoue que j'ai très mal pris quand même. Mais bon. Bref. Ensuite, l'accélération de Pires, le but de Trezeguet donc. Et là, Thierry Henry qui fonce vers les Italiens pour leur dire rasseyez-vous. Parce que là, c'est fini. Là, c'est le but en or encore. Donc là, on sait qu'on est champion d'Europe sur ce but de
Trezeguet. Qu'est-ce que c'est bon, ce but en or, là, quand tu le vis comme ça. On l'a vécu trois fois avec l'équipe de France. Il y a eu Laurent Blanc face
au Paraguay, 8e de Coupe du Monde.
Et ensuite
le Portugal, donc la demi de
le Portugal,
de l'Euro.
Exactement. Et là, et à chaque finale. Fois, ça nous a été favorable et c'est fou. Les en termes d'émotion, c'est un truc incroyable.
Ah ouais, c'est sûr. C'est
ouais, bah, quand tu l'as du bon côté, ça va. Mais imagine à la place des équipes qui subissent ça.
Et pensez aux supporters pendant la prolongation. C'était terrible à vivre.
Oui, parce que dès qu'il y avait une action, tu disais ça y est, c'est fini. Non, incroyable.
Et puis alors à la fin. Il y a cette image marquante qui a marqué la France entière à ce moment-là, la discussion entre Roger Le Maire et Didier Deschamps pour essayer de le convaincre de rester en équipe de
Roger,
France.
C'est toujours de comprendre ce que voulait dire Didier, il a toujours pas compris.
C'est ça.
Même le traducteur n'a pas réussi.
Je comprends pas.
Plus faible, plus fort, plus faible. Mouvement. On n'a pas été en mouvement.
Non, il essayait de le convaincre de rester, mais
vous êtes, vous étiez au courant de ça, Dugas, que Deschamps allait arrêter ou
Non, pas du tout. Non, on n'était pas au courant. Bah, c'était entre eux, ça. J'imagine que c'était entre eux. Non, bah après.
Alors cet euro-là,
il n'y a pas que lui. Je crois qu'il y a Laurent Blanc aussi qui arrête après ça.
Oui, alors Deschamps a très mal vécu cet Euro 2000. Hein. Il parle plus à la presse, il se fait critiquer. Ouais. Il y a l'émergence de Patrick Vieira. Et en gros, on se demande s'il faut pas mettre Deschamps sur le banc.
Il y a des. C'est compliqué. Les années passent et c'est de plus en plus compliqué pour Dédé. Et puis à côté de lui, il a des joueurs monstrueux.
Ben oui, c'est ça.
Il y a Patrick Vieira et Manu Petit qui sont juste monstrueux à cette époque-là. Et tu vois une différence. Alors Deschamps est le métronome et le capitaine. Et la tête pensante de ce milieu de terrain, mais Deschamps à la tête et les autres, ils ont et la tête et des cannes et des courses et de l'agressivité et ils attaquent et ils défendent et ils savent tout faire. Donc tu te retrouves, je trouve que à cette époque-là, ça reflète assez bien un espèce un nouveau milieu de terrain qui est en train d'exister et de se mettre en place. Des milieux de terrain qui sont capables de défendre et d'attaquer des box-to-box, ce que Deschamps ne savait pas faire. C'était plus une sentinelle.
Plus de course, un peu moins technique que Didier, mais plus de course, quoi.
Ouais, c'est ça, à peu près.
D'ailleurs, alors, on a assez peu cité Manu Petit sur cet euro parce qu'il est malade. Il nous l'a raconté déjà.
Autant ça a été l'homme de 98, autant.
Une shot piece, il avait.
Très bien, merci.
Bon, voilà pour l'Euro 2000. Dernière question. La question, oui, parce qu'après, bon, il y a le fiasco 2002.
Pourquoi tu as arrêté derrière.
Quand tu gagnes tout comme ça, tu t'es pas posé la question de te dire tiens, écoute, on finit là-haut, j'arrête les Bleus, moi j'ai tout connu. Sachant qu'il y a des jeunes derrière qui poussent, donc tu sais que.
Non, pas à ce moment-là, parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien que t'as envie que ça continue. Après, par contre, après 2002, moi c'est après 2002 que j'arrête. Et là, je sens que je suis à côté de la plaque et que j'ai moins envie, que j'ai du mal à me remotiver, que j'ai du mal à trouver de. Oui, c'est compliqué, mais t'arrêter comme ça au sommet, j'ai pas l'âge d'arrêter en 2000.
T'as 28 ans.
J'ai 28 ans. Non, tu continues.
Non, t'arrêtes pas.
Voilà, t'as envie que ça continue, même si la génération ça pousse derrière. Attention, hein. Mais il y a aussi la génération qui est là, qui peut se renouveler, qui peut. Il y a des mecs qui arrêtent, mais il y a des mecs qui peuvent prendre le relais. Je te dis, quand tu vois, tu te dis Deschamps et Laurent Blanc arrêtent, aussi fort soit-il.
Ouais, t'as vu les mecs derrière, quoi.
Tu vois les mecs qui arrivent derrière, c'est quand même, ça donne envie aussi de jouer avec.
C'est vrai.
Et ben voilà, c'était passionnant, cet Euro 2000, grâce à Dugas.
C'était super. C'est peut-être une des plus belles compétitions que l'équipe de France
ait
réalisée, et peut-être une des meilleures équipes aussi qu'ait eu l'équipe de France aussi à cette période.
En termes d'émotion, en plus, je te confirme, parce que nous...
En termes d'effectif, est-ce que c'est effectif par rapport à toutes les sélections qu'il y a eu avant et après?
C'est vrai que c'est très fort. En termes d'émotion, il y aura peut-être match avec l'Euro dont on parlera demain, l'Euro 84. En France.
Ah oui.
Remporté par Michel Platini et le carré magique. Luis Fernandez sera avec nous pour en parler.
Ou peut-être l'Euro 2004 de vendredi.
Oui, peut-être. Parce que franchement. Alors ça, on en parlera vendredi,
j'aimerais bien que tu le mettes un peu plus haut.
Non, quand même, ton entrée.
Et que tu le respectes un peu plus.
On en parlera de ton entrée contre la Grèce.
Non, mais bon.
Tu aurais dû normalement faire tourner le match.
On s'appellera après l'émission, on en parlera.
Malheureusement, non. On n'a pas fait tourner le match. Pourtant, t'as fait une bonne entrée. Hein.
C'est joliment dit.
Franchement, vu les mots, mais je vous raconterai vendredi, vu les mots de Jacques Santini quand je suis
avant
de rentrer, je me suis dit, putain, je suis sur le toit de l'Europe.
Bon, on en parlera vendredi. Et puis un jour, Louisa, tu nous raconteras tes JO 2012.
Avec plaisir.
Ouais, oui, quand même. Quatrième place. Non, troisième. Non, quatrième. Pas de médaille, malheureusement.
Ouais.
On en parlera, Jérôme.
Oui, dans le podcast.
Non, dans une seconde.
C'est gentil.
Non, Louisa, je plaisante, bien sûr.
Attendez-vous plus d'engagement des joueurs de l'équipe de France sur la politique. Vous entendrez aussi le règlement de compte d'un président de club de Ligue 1 avec Jérôme. Et il n'y a toujours pas une alerte aussi, hein, le cocorico pour France Pays-Bas. Bah, restez avec
nous. Ça arrive, restez avec nous, soyez patients.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h34 sur RMC, la dernière demi-heure de Roten sans flamme avec Louis Anessive, avec Christophe Dugarry et avec Jean-Louis Tour. On continue nos débats avec un bon ring des supporters là dans un instant. Et puis le quiz de Julien Cazard pour clore cette émission fantastique de ce mercredi soir. On se régale, on est à deux jours de l'Euro. Deux jours.
Deux jours de l'Euro, oui.
Ah, ça fait pleurer le fils de Dugas, tiens.
Ah oui, oui, écoute.
C'est pas le fils de Dugas là, c'est Cocorico.
C'est parti Cocorico, vous avez 5 minutes pour envoyer Euro, E-U-R-O, par SMS au 7-32-16. Si vous êtes tiré au sort après avoir fait ça, vous gagnerez peut-être vos deux places pour France-Pays-Bas. Le 21 juin à Leipzig, on vous fournit en plus le voyage,
c'est le plus beau match, hein.
La nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC sur place. Allez-y, Euro par SMS au 7-32-16. Juste avant de débattre autour de l'engagement des footballeurs, on va écouter donc celui qui veut régler ses comptes avec
non.
toi, Jérôme.
Mais non.
C'est Olivier Létang, le président de Lille. Donc tu l'avais mis en cause en disant que c'était aberrant qu'il porte la flamme lorsqu'elle est de passage dans le Nord, la flamme olympique, alors qu'il a refusé,
il a refusé
officiellement, refusé officiellement que ses joueurs soient libérés pour faire le tournoi de foot.
Euro,
Diakité, Chevalier ne sont pas dans la liste.
Les trois.
Non. Thierry Henry a appelé d'ailleurs hier certains joueurs pour compenser. Mais donc Olivier Létang est droit dans ses bottes. Il ne voit pas le problème.
En fait, ce sujet, finalement, il y a une polémique qui a été créée par une personne que je ne vais pas citer. Cette personne, jamais on avait libéré les joueurs, le 15 août, si on se fait éliminer lors du Q3, c'est la même personne qui aurait dit, mais regardez, ils n'ont aucune ambition, ils ont libéré leurs joueurs. Ça n'est pas que nous ne voulons pas, c'est qu'on ne peut pas. Nous sommes le seul club, en fait, à jouer en même temps que les JO. Voilà, on a deux matchs qui sont deux matchs importants. Tous les matchs sont importants. J'ai dit tout à l'heure, on veut toujours gagner. Quel message vous envoyez si vous dites aux autres joueurs, si vous dites à votre coach, si vous dites à tous vos supporters, ben finalement, non, mais on accepte de libérer des joueurs parce que le club est moins important. Et je tiens à préciser que si on avait fini troisième, j'avais pris l'engagement de libérer les joueurs pour qu'ils puissent participer à cette compétition.
Oui, voilà, Jérôme.
Ouais. Bah déjà, il parle à ma place. Donc,
il parle de toi en tout cas. Et donc tu aurais critiqué
Déjà, il peut me parler de moi et me critiquer. Il n'y a pas de problème sur ce que j'ai dit. Mais qu'il ne parle pas à ma place. Dire, il est qui, lui, pour savoir si j'aurais critiqué, s'il avait libéré les joueurs et qu'ils sont sortis.
Surtout toi, tu ne sais même pas ce que tu penses à la base.
En plus, donc t'imagines, il sait mieux que moi. Alors que, comme tu le dis, voilà, ça peut changer de la veille. De la minute à l'autre, ça peut changer, ça peut évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que. Encore une fois, monsieur Létang, vous n'êtes pas droit dans vos bottes.
Il n'a pas répondu sur le fait de porter la flamme.
Je suis désolé, mais porter la flamme quand tu craches sur les JO comme ça, c'est un manque de respect à la France tout simplement, au sport en France, mais à la France principalement. Et donc pour moi, ce mec-là, ce monsieur-là ne mérite pas de porter la flamme olympique. Il aurait pu la laisser, la flamme olympique, et... Encore une fois, il aurait pu faire aussi un geste. Parce que trois joueurs, je peux comprendre que
ça fasse
beaucoup et tout, mais fais un geste, libère-en un.
Moi, je peux comprendre. Je comprends Létang, son explication, je la comprends, mais je peux aussi comprendre Jérôme quand il trouve qu'il y a un décalage entre le fait qu'il porte la flamme et le fait qu'il veuille pas libérer pour les Jeux Olympiques.
Et oui.
Voilà, je trouve c'est que les deux positions.
Ça s'entend, bien sûr.
Voilà, se respecte. Chacun est là pour faire son boulot, déjà pour faire son métier.
Et oui, moi, je viens pas faire le malin. Viens pas faire
voilà,
le malin.
Voilà l'argument
en
de Jérôme.
La
voilà, tu défends ton club, tu machin, je l'entends, okay. Mais je comprends aussi Jérôme. Donc s'attaquer à Jérôme sur ce cas-là, j'aurais préféré plutôt que de dire que Jérôme d'ici aurait dit ça, qui m'explique ce
volte-face.
Ouais, un peu.
Ben oui, parce que à la fois, quand tu portes la flamme, moi j'imagine que c'est une fierté, il n'y a pas de souci de porter la flamme. Mais ça veut dire que tu es pour le sport olympique, tu es pour la représentation en France de sport et de tous les sports.
Mais je pense pas qu'il soit contre les sports olympiques. C'est juste que il est dans une position où il pense d'abord à son club avant de penser à la sélection nationale.
Penser au pays.
Comme il a dit, s'il n'avait pas ce tour préliminaire de Ligue des Champions, il aurait certainement.
Ça on n'en sait rien, Louisa.
Et toi, t'es pas gêné, Louisa, sur le fait que voilà,
il prend cette décision-là, mais derrière, il va porter la flamme olympique. Tu vois pas le décalage, toi?
Si, je peux le comprendre, que du fait qu'il refuse de libérer ses joueurs, ben, alors qu'il refuse de porter la flamme olympique, mais là, encore une fois, il voit aussi son intérêt et son côté émotionnel, personnel. Mais moi, si je suis président de Lille, je libérerai pas non plus mes joueurs, par contre.
Je ferais pareil. Bon.
Non, mais
après, Olivier Létang est le bienvenu. Oui,
voilà. Olivier Létang est bienvenu pour venir s'expliquer. Il l'a déjà fait, hein, mais toujours pareil, sans te nommer, en disant ça n'a rien à voir. On peut aimer les JO, aimer ce que représentent les JO, avoir envie de porter la flamme, mais défendre aussi les intérêts de son club.
Jean-Louis,
c'est sa position. Oui, on peut les deux, oui, mais quand même. J'aimerais une explication.
On l'a lancé. L'invitation, on a voulu qu'ils viennent dans l'émission, tout le monde est bienvenu, surtout quand tu es cité dans l'émission, bien critique sûr. Ou pas, tu peux venir dialoguer, il n'y a pas de souci. Dire moi, je dis juste qu'il ne veut pas venir, donc il n'est pas courageux, bah, c'est comme ça, et il y en a, et ce n'est pas le seul, il a la flamme du courage, je pense qu'il ne l'aurait pas porté dans tous les cas. Et puis moi, je souhaite bon courage à mon pote Bruno Genesio, qui vient de signer à Lille.
C'est son pote maintenant, Bruno Genesio.
Oui, qui vient de signer à Lille, parce qu'apparemment tous ceux qui ont travaillé avec Olivier Létang, ça s'est mal passé, ça s'est mal fini, ça s'est mal passé.
Fonseca, donc... c'est bien passé.
Ah bon ?
Bah oui.
Ouais, mais il est parti vite, Fonseca, quand même, non ?
Bah, il y a Milan qui l'a appelé,
c'est juste Milan.
Il est parti vite, il a fait 3 ans. Bon, très bien, allez, merci.
En tout cas, bon courage, Bruno.
Je vous rassure, parce que je sais que vous étiez très inquiet, Griezmann et Giroud vont mieux. Ils ont fini l'entraînement avec même une séance de frappe, donc c'est que ça va.
Bah, c'est que les chevilles, les chevilles vont bien.
Et puis alors bon, évidemment, vous avez compris, on n'a pas parlé de l'engagement des footballeurs sur la politique. On le fera demain. Vous
n'allez pas vous échapper. Ça
c'est
tient
intéressant.
À cœur.
Vous n'allez pas vous échapper là-dessus.
Ça tient à cœur.
Ah oui, ça me tient à cœur.
C'est vrai. Parce que début de semaine, tu me le dis.
Passer de Zidane et Marcel Desailly, capitaine des Bleus en 2002, qui font barrage au Front National, aux réponses qu'on a eues aujourd'hui sur le sujet.
C'est vrai.
Je trouve que ça mérite d'en parler.
C'est un signe.
On le fera demain, tranquillement. Et dans une seconde, bah, c'est le quiz.
Ah oui.
La fessée. Allez Louisa, on va le tordre celui-là.
sauf sur Louisa, mais sur Duga, la fessée.
Allez, mais arrête qui est fessée, on va te tordre avec Louisa.
Ouais, allez, vas-y, à tout de suite.
On voit la sauce.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h44 sur RMC, on est là, on est bien fini. L'émission de Rotten sans flamme, comme tous les jours, avec le quiz de Julien Cazard, avec Jean-Louis Tour, qui sera mon joker, et une équipe qui n'en a pas gagné une encore. Hein. Louisa Nessib et Christophe Dugarry, ils vont essayer. Ils vont essayer d'en gagner une.
On est vaincu, tu plaisantes ou quoi?
Et deux auditeurs. Ouais, écoute, invaincu. Ouais. De toute façon, déjà, il faut décrypter les questions de Julien Cazard. Hein. C'est pas facile.
Il arrive dans une seconde. Juste, puis je suis toujours sur mon entraînement des Bleus, là, le premier en Allemagne.
Oui.
Sachez que Théo Hernandez a été ménagé, donc. Il a bien écourté son entraînement, mais c'était prévu. Il avait pris un coup contre le Canada. Là, il a été ménagé. Il devrait s'entraîner demain, selon nos envoyés spéciaux. Voilà. Autre info qu'on nous envoie.
Oui, Jean-Louis.
Il va falloir surveiller le ballon de la compétition. Qui visiblement
est
assez lourd pour un ballon de foot.
Ah, bah ça, on appellera Lionel Charbonnier parce qu'il a bossé dans les ballons.
Et Jean-Michel Larquet,
ils n'étaient pas d'accord sur le poids des ballons. Donc.
Ils se sont embrouillés pendant 10 ans à cause d'une histoire de ballon. C'est vrai, en plus.
Et depuis, Jean-Michel, il ne peut pas se le voir, Lionel.
Non, tout seul.
Non, je plaisante.
Mais bon, bref, voilà, ça, on va enquêter là-dessus grâce à Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial. Mais là, tout de suite, on s'affronte.
Rotten contre le reste du monde, saison 3.
Jérôme, il faut que tu finisses en beauté.
Bah oui,
c'est que je vais pas
gagner.
Hein, pas gagné.
T'as gagné hier?
Ouais, j'ai gagné. Je suis invaincu cette semaine.
On est sûr de ça? Vraiment sûr de ça?
Ah oui, je suis à 2 victoires.
Hier?
Ouais, oui, je suis à 2 victoires. Et prends pas cet air.
Oui, c'est vrai, il a gagné.
J'ai gagné.
C'était pas dit. Ouais,
si.
Merci. On a mal travaillé alors.
On a mal bossé.
Donc, il y a une enceinte portable de la marque Lexon, l'enceinte Minoté à gagner. Ce sera soit pour Emmanuel, soit pour Ludovic. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir les gars.
Bonsoir.
Salut messieurs.
Ludovic, comme tu es supporter de Lille, et donc ton président c'est Olivier Létang, t'as le droit de choisir entre Jérôme et le reste du monde.
On va prendre Jérôme, s'il vous plaît.
Allez.
Et voilà. Voilà un Lillois qui aime bien Jérôme.
Est-ce qu'il va la porter, la flamme, au final, Olivier
Létang? Bah oui. À Ludovic, non, mais non. Olivier Létang.
Oui. Ils ont honte de rien, les mecs, c'est magnifique.
Ah, merci. Ah, bah, tu vas dans le sens de Jérôme.
Ah, non, moi j'adore. Moi, les choses, ça me fait chier. Par contre, je veux bien porter la flamme pour qu'on voit ma tronche.
Oui, bah, bien sûr.
Question flash.
C'est le midi.
Dans vos cas où tu sais.
Non, mais c'est pour les valeurs de l'Olympisme.
Oui, franchement, si on l'avait pas vu lui. Franchement, on aurait été mal. Moi, je regardais pas les JO aussi.
Ah,
c'est
terrible. Ah ouais,
s'il porte pas la flamme.
Ça, plus
des Castera
et Jules.
Il va la porter avec Danny Boone.
Sérieux? Normalement, Danny Boone sera le dernier porteur, parce que c'était Jules à Marseille.
Ah oui, c'est que des grands sportifs, du coup. C'est vraiment officiel.
C'est vraiment ce pays va de mieux en mieux. Question flash.
Non, c'est Lynn Renault là.
Non, mais, là, c'était une blague, on sait pas.
Hein. On sait pas.
On imagine.
Oh, qu'est-ce qu'il y a de plus choquant? C'est pas trop. Question flash. Qui est le directeur du comité d'organisation de l'Euro 2024?
Philippe
Lahm. Oh, bonne réponse Louisa. De Louisa.
Bravo Louisa.
T'as dit Jean-Pierre Escalette.
T'as dit Jean-Pierre Escalette. Pourquoi j'ai dit Escalette?
Qu'est-ce qui t'arrive?
Comment il s'appelle celui qui faisait de l'aviron là?
Estanguet. À l'Euro 2024. Ouais, ben il fait tout lui. Lui,
il fait tout. Il a confondu Escalette avec Estanguet.
Le JO. Je crois qu'il est prévu. Alors si jamais il est prévu comme Premier ministre normalement en intérim.
Il faisait du kayak, il faisait pas de l'aviron.
Oui, oh, du 200 barreurs, du 300 masseurs, on s'en fout. Allez,
c'est vrai en plus.
Qui
c'est important d'être.
Quel joueur? Là, franchement, là, on est en train de perdre du monde. Donc, le peu qui reste, on va essayer de les garder.
Saluons quand même que Louisa a une bonne réponse parce que c'était pas du foot féminin aussi.
Il n'y a pas plus sexiste que cette. Et le mec, il me dit que je suis sexiste derrière. Bravo, non, Louisa, qui a trouvé une réponse. Féminin. Bravo, Louisa, c'est bien pour une fille.
Mais
c'est
non, très bien. Je note que c'est pas sur le foot féminin qu'elle trouve.
Et pourquoi elle devrait. Elle regarde pas le foot féminin, patate.
C'est vrai que je dis ça.
Quel joueur de l'Euro 92. Ouais, patate, je vais un peu fort quand même. C'est ce que je dis à mon fils en plus. Quel joueur de l'Euro 92 est important pour les boxeurs? Joueur français. De l'Euro 92.
Uppercut.
Uppercut, Bernard Uppercut, fameux joueur de l'équipe de France de 92.
Protégeant. C'est un joueur terrain, de l'équipe de France.
C'est un milieu de terrain de l'équipe de France.
Durand.
D'accord.
Durand.
Franchement, il y a un
Rémi Garde. Rémi Garde.
Oui. Ah oui. Je vous dis, il y avait une équipe.
2-0 pour l'instant.
Attention danger en milieu de terrain. C'était Joga Bonito.
Et du caractère.
Ah oui, ça. Quel joueur de l'Euro 92 aurait fait un duo de rock anglais dans les années 80 s'il avait joué avec son frère? Quel joueur français de l'Euro 92 aurait fait un duo de rock anglais dans les années 80 s'il avait joué avec son frère?
Oasis.
Dans les années 80, Oasis c'était quand même encore jeune.
Rock anglais.
Un groupe de rock. Anglais, tu doubles le nom, un nom et d'un joueur de.
Ah oui, bah oui, vous l'avez dit en plus.
Vous l'avez dit.
Talk. Non, c'est pas
talk
ça.
Talk, non. C'est. Il y avait. Alors, regardez des milieux de terrain.
Durand.
De Jérôme Rotet. Et on est encore sur du Joga Bonito, et ce n'est pas fini.
C'est que l'Euro 92?
Non.
Ah, ok.
Que ça t'emmerde, tu
non,
me le dis.
Non, c'est il y avait une thématique.
Il y a une thématique plus ou moins générale. Oh. Et ben, question, c'est abusé.
Oh, mais moi, oui, c'est abusé, gros!
Focus. Pose le téléphone.
On est sur l'Euro 2004.
Focus, ouais.
Plus belle.
On sait que la Grèce a joué contre la République tchèque pour aller en finale.
Non. Contre le Portugal.
Non, pour aller en finale.
Ah, pour aller en finale. Oui.
Mais le Portugal, ils ont battu qui la en Turquie. Demi-finale
Les Anglais.
Non.
Qu'est-ce que tu viens de dire?
Les Anglais.
Pas du tout.
Mais non.
L'Italie.
L'Espagne, l'Italie.
Non.
Suisse.
Croatie.
Non.
Les Pays-Bas.
Les Pays-Bas, Louisa.
Bravo,
et oui, deuxième bonne réponse.
C'est un carnage.
Je suis con.
Franchement, Jean-Louis, on félicite Louisa.
On fait une vérité dans cette émission.
Bah, encore une fois, c'est pas sûr du foot féminin.
Bravo, Louisa. Qui s'est cultivé? Quel ancien international allemand était chanteuse de R&B dans les années 2000?
Quel ancien international?
Klinsmann, c'est la chanteuse de R&B, Klinsmann, qu'on connaît bien.
L'âme,
bonne réponse, oui. L'âme.
Pour l'âme.
Et oui, c'est
l'âme. L'âme, c'est une chanteuse de R&B.
C'est pas R&B.
Ouais. L'âme, elle faisait pas du R&B, l'âme. Pardon.
Pas vraiment du R&B.
Alors parce que là, attention, c'est quoi les quoi? On est sur Planète Rap, on est sur quoi là?
C'est pas
quoi l'émission? Louisa, tu sais,
c'est bon. Tenons pas, va, c'est bon.
Non mais c'est du R&B, l'âme.
Ouais.
Ouais, ouais.
Enfin, c'est français, bien donc
sûr,
forcément.
Bien sûr.
Question double-double.
Attention. Du bon à R&B.
On va vous parler foot.
Puisque sur Wikipédia, ils disent de R&B.
Merci.
C'est bon.
Quand même, non, mais les autres, tu les. Si, c'est devenu les spécialistes de la musique
pop et de R&B.
Question double-double. Donnez-moi un des meilleurs buteurs de l'Euro 92.
L'Euro 92
Laudrup.
Pas du tout.
Klinsmann.
Van Basten.
Laudrup. Gascogne, Beckham.
Mais non, 92.
J'en sais rien, je balance tout. Bergkamp.
Stop.
Bien joué, du gars.
On bloque. Et donne-moi un
Deuxième, je peux t'aider. Il y avait dans les trois, il y en avait deux qui étaient scandinaves.
Larsen,
bonne réponse.
5-2.
Ah oui, très fort. Surtout, elle a fêté, pas, elle qui est c'est Henrik Larsen, le mec qui
Toi, la fête.
Il y avait Thomas Brolin aussi. Vous vous rappelez de Thomas Brolin?
Voilà, c'est
Carlisle Riddle.
Ouais.
À l'époque, c'était ça, de la France.
5-2.
Qui que c'est-il donc?
Un joker.
Ah. Question à deux points. Allez, joker.
Il a un joker. Non, c'est un contre-joker. Il joue pour les autres. Pour le reste.
Tu sais, c'est que Quentin fait l'innocent, alors qu'on sait très bien que c'est lui qui a choisi.
Réponds pas.
Mon premier se mange à l'apéro. Mon deuxième peut être marin ou de la campagne. Mon troisième est une boisson alcoolisée de stade en Allemagne. Mon quatrième n'est pas on. Et mon tout a été champion d'Europe avec la Mannschaft. Biroff. Oliver Biroff. Bonne réponse de Jérôme Rock.
Des deux points.
Oui, une question à deux points.
5-4.
Pour
eux. Le reste du monde.
Ah, qui est l'intrus? Entre ces 5 champions d'Europe 96, quel est l'intrus à cette période-là? Biroff, Klinsmann, Moller, Scholl, Babel. Lors de l'Euro 96, il y a un intrus parmi ces joueurs.
Biroff.
Pourquoi?
Parce qu'il joue en Italie.
Oh wow. Ah oui.
Waouh.
Bravo. Ah, chapeau.
Waouh.
Oui, c'est le 5 qui joue pas en Allemagne. Ouais. Il n'y avait que deux joueurs de la Mannschaft qui ne jouaient pas en Allemagne.
Peut-être balle de match.
On s'en fout, allez, avance.
Oh là là, on se calme. Question du gars, il m'a gonflé.
Sur la balle de match?
Ah non, pas sur la balle de match.
Oh, mais gars, qu'est-ce que tu caches dans ton cerveau? What do you hide into your brain? Oh, bro.
Du gars, tu n'as droit à qu'une seule réponse.
Oui, merci.
Quel est le nom de la Anne Hidalgo de Marrakech?
C'est-à-dire la mère de Marrakech.
Ben oui,
la mère de Marrakech.
Pas la folle, pour la sorcière.
Arrête de regarder, hein. Vas-y, c'est qui?
Mansouri, elle s'appelle. Je ne sais pas son prénom, mais elle s'appelle Mansouri.
Fatima Zahra Mansouri. Bonne réponse.
D'ailleurs, on l'embrasse très fort.
On l'embrasse très fort. Et merci pour le permis de construire.
Ça peut servir.
Parce que péter un site historique pour mettre une piscine à débordement, c'était pas gagné.
C'était pas gagné.
5.
Allez, on finit.
Dernière question.
Question à deux points.
Ok. Balle de match. C'est donc une balle de match.
C'est donc forcément une balle de match. Donc c'est une question larguée.
Salut, c'est Jean-Michel Larquet sur RMC.
Oh, c'est moi le dinosaure, dinosaure, dinosaure.
Je prends un joker.
Il prend un joker.
Ouah, il a un deuxième joker.
Et le joker, c'est Daniel Riolo.
Impossible, il torture un communiste dans sa cave.
Bon, ben alors c'est Jean-Louis qui va faire Daniel.
Oh. Ah oui, ça va Daniel? Voilà, très bien.
Question Larquet. L'Allemagne a gagné l'Euro 80. Mais face à qui en finale?
L'Italie.
URSS, ouais.
Tchécoslovaquie.
Tchèque.
Pologne. RDA. Italie. Yougoslavie.
Italie, Espagne.
Ils n'ont pas fait souvent des finales. Hein. Belgique! Bonne réponse de Jérôme Rotten!
Et Jérôme qui va peut-être aller chercher un grand chelem demain. Bravo Ludovic qui remporte l'enceinte.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.